Et si finalement un des plus vieux canaux marketing était encore celui qui est le plus rentable ? Cette semaine, nous accueillons Steve Toiteau pour parler d'email marketing. Ensemble, on va balayer les enjeux d'une stratégie d'email marketing rentable. On va parler branding, personnalisation, des problèmes à éviter et surtout parler de l'avenir de l'email marketing. Ce canal marketing qui est loin d'être dépassé.
Je suis Maxence Andersalmen, fondateur de Make Sense for Digital et vous êtes dans Make Sense, le podcast du marketing, du digital et du marketing digital.
Cet épisode est sponsorisé par Mavericks Marketing, les formations pour marketeurs ambitieux. Que vous vouliez devenir expert en Google Ads ou en e-commerce en passant par l'email marketing, toutes les formations se trouvent sur le site mavericks-marketing.com. Le lien est en commentaire de l'épisode.
Hello à tous et bienvenue dans Make Sense, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steve Toiteau. Steve, t'es un peu notre expert de l'email, t'es notre explorateur du monde de l'email, on pourrait dire. Est-ce que tu peux peut-être nous dire deux, trois mots sur ton quotidien, sur ce que tu fais, qui es-tu, pourquoi es-tu là ?
Eh bien écoute, salut Maxence, merci beaucoup pour ton invitation. Alors moi, je m'appelle Steve Toiteau, j'habite près d'Annecy. Donc je fais de l'email marketing, notamment pour les e-commerçants, c'est-à-dire que je mets en place des stratégies emailing pour les e-commerçants, pour les aider à augmenter leurs ventes sur la partie email marketing, donc sur tout ce qui est automatisation d'emailing, mais aussi sur la partie newsletter, hebdomadaire, bi-hebdo, tout ça. On va dire que 80% de mes clients, c'est des e-commerçants et 20% de mes clients, ça peut être des coachs, ça peut être des startups, ça peut être d'autres secteurs en fait. Mais voilà, 80% de mes clients, c'est des e-commerçants et notamment la partie email marketing.
Et alors justement, on entend souvent que l'email marketing a une espèce de retour en grâce. Pendant longtemps, c'était un peu un levier marketing de vieux, on va dire. Et je caricature un peu, évidemment, mais dans certaines boîtes, c'est un peu le levier qui est délaissé, alors qu'il y avait des leviers un peu plus sexy, comme du Google, du Facebook, etc., où on fait des tests de créa, etc. Bah, en fait, l'email, on peut faire tout ça aussi, et même plus, et on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est ça qui va être très sympa aujourd'hui. Est-ce que, peut-être pour démarrer, on va quand même reparler et remettre un peu l'email au centre du mix, l'église au centre du village, et se redire qu'aujourd'hui, selon toi, une boîte e-commerce tout non, mais qui fait pas d'email marketing, finalement, c'est comme si son mix marketing, il essayait de faire le marathon de New York avec les deux pieds attachés et en tongs. Donc caricature, ouais. Mais c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur ce que tu vois dans les usages de ceux qui ont réussi, en tout cas en termes de placement de l'email dans leur mix média ?
Non, je pense que c'est un bon point. Et aujourd'hui, on voit les marques qui fonctionnent le mieux. Elles font des efforts sur la stratégie emailing. Pourquoi ? Je pense parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée des communautés. On est arrivé en 2023-2024 où on se dit faire de la publicité, c'est bien, faire venir du trafic, c'est bien, sur une offre, c'est bien. Mais comment on arrive à garder ces personnes-là? Comment on arrive à faire en sorte qu'elles en parlent autour d'elles? Comment on fait pour créer une armée d'ambassadeurs? J'aime bien dire ça, une armée d'ambassadeurs. Et bien justement, en créant un canal dédié qui n'est pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais on est, encore une fois, locataire de la plateforme, alors que la boîte mail, c'est un truc qui est beaucoup plus... C'est un canal qui est beaucoup plus, si je puis dire, privé, tu vois, c'est beaucoup plus privé. Et donc, le fait de communiquer d'une manière qui intéresse les gens, leur partager de la valeur, leur montrer que tu les comprends, tu vas arriver petit à petit à créer cette communauté que tu recherches, et les gens vont acheter chez toi, les gens vont en parler autour d'eux, les gens vont vouloir acheter à nouveau chez toi. Et je pense que c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui de chaque marque, c'est de plus être dépendant de plateformes de régie publicitaire et encore une fois de capitaliser sur le trafic qu'on a pour encore une fois envoyer des emails qui parlent à la cible et qui leur donnent envie de faire partie de ce mouvement.
Ouais, j'adore dans ce que tu dis parce qu'en fait on rejoint complètement l'épisode précédent avec Cédric qui nous parlait d'inbound marketing et de la grosse logique qui était de réussir à déplateformer son audience.
Ouais.
Donc c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, de plus être locataire, mais vraiment de récupérer la donnée, d'être en lien direct, sans intermédiaire finalement, avec ses prospects, ses clients, bref, son audience au global. Ouais. Et ça permet normalement de créer des liens qui sont beaucoup plus forts en fait. Donc une marque qui ne le fait pas aujourd'hui, elle se prive déjà de chiffre d'affaires immédiat, ça c'est une chose sûre et certaine, ouais. Mais en plus sur la durée, t'as pas cet effet cumulé et au fil du temps finalement tu ne crées pas cet avantage compétitif que peut représenter une base mail, une base de contact actif. Et que tu actives au quotidien, ça se sent pas forcément tout de suite, je pense, une marque qui délaisse ça, parce que si son acquisition est très bien faite, si elle a un très bon taux de conversion, etc., elle va pas le voir. Par contre, sur la durée, c'est une fuite en avant vers l'acquisition, et on peut vite passer à côté, en fait. Donc, très cool d'avoir remis ça au centre du mix dès le début.
Pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, par rapport aux régies publicitaires versus l'emailing, tu vois, pour moi, l'emailing, tu vas pouvoir partager du contenu qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus conversationnel. tu vas pas pouvoir raconter sur tes réseaux sociaux tes hauts et tes bas. Enfin, tu peux le faire, mais je veux dire, ça se fait moins, en fait. Les gens ont... Enfin, les fondateurs de marques e-commerce ont un petit peu plus de mal à se dévoiler sur les réseaux sociaux, alors que la boîte mail, c'est l'endroit un petit peu, le petit cocon où tu peux partager du contenu hyper exclusif avec ton audience, où tu peux vraiment te dévoiler, montrer ton côté humain, montrer un petit peu que derrière cette entité, cette marque e-commerce, eh ben, il y a des humains qui la dirigent, et des humains avec des réelles émotions. Et là, justement, tu peux te permettre de partager du contenu beaucoup plus, humain. Je n'ai pas exactement le mot, mais voilà, beaucoup plus proche de ton audience, en fait. Et du coup, c'est comme ça que derrière, les gens se disent « Ok, c'est hyper intéressant, je suis d'accord avec ce qu'il ressent, je l'ai déjà ressenti, il a des problématiques aujourd'hui, je comprends, donc j'ai envie de faire confiance à lui qu'à une autre marque. » Tu vois, je prends souvent l'analogie du primeur. En dessous de chez toi, tu as un primeur qui vend des légumes, tu sais, et tu as le choix d'aller chez ce petit primeur ou tu as le choix d'aller chez Carrefour ou chez Leclerc, tu vois, acheter tes légumes. Et ben, vu que tu connais l'histoire du primeur qui habite en dessous de chez toi, tu sais comment il s'appelle, tu sais où il fait pousser ses légumes, tu sais comment il les transporte jusqu'ici, et ben en fait tu connais son histoire, tu connais un petit peu ses émotions, tu sais qu'il se lève tous les matins quand tu discutes avec lui, tu sais qu'il se lève tous les matins à 6h du mat pour faire sa popote et tout, alors que Carrefour, Leclerc, t'en sais rien, en fait. Et tu vois, il y a un fossé entre les deux, et je pense que le côté humain, il faut le mettre en avant. D'autant plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle où on peut créer des contenus à la va-vite et c'est pas du tout humanisé. Justement, en prenant le contre-pied, en se disant comment je peux mettre de l'humain dans mon marketing, et ben c'est comme ça que les gens vont s'identifier et se dire « Ok, j'adore cette marque ». Et c'est ça le but.
Ouais, finalement, c'est réussir à avoir ce côté authentique.
Exactement.
C'est le mot hyper galvaudé, parce que t'as beaucoup qui essayent de faker une authenticité, ce qui est impossible. Mais finalement, c'est ça qui va créer cette connivence, qui va réussir à faire en sorte que les clients ne vont pas juste acheter un produit, mais ils vont aussi acheter une expérience, ils vont acheter auprès de quelqu'un. Et ça, pour le coup, en plus de déplatformer et de pas oser le faire potentiellement sur du Meta, sur du Insta, sur LinkedIn, etc. Mais aussi, c'est sur des régies, tu es soumis aux algorithmes finalement. Donc, tu es obligé d'avoir un minimum de course like, mais en tout cas, si tu n'as pas des contenus likeables ou qui ont un attrait direct ou que les gens ont liké, etc., en fait ton contenu il va se perdre, alors que sur l'email, ton canal direct, pour le coup, t'es toujours soumis évidemment à tout ce qui va être réussir à avoir des emails qui sont ouverts, des emails qui sont cliqués, etc., ça c'est une autre histoire, mais au moins t'as pas un intermédiaire qui va dire les gens ont pas l'air d'aimer ce contenu, je vais le cacher sous un tapis très épais pour que personne ne le voie et ne puisse le liker. Donc au moins t'as cet accès direct pour montrer ce discours là que tu peux tenir dans l'email, pour le coup.
Carrément.
Très clair. Et en tout cas, on a pas mal parlé. Je pense que les gens ont compris maintenant que l'email, c'était important. Parce que déjà, il y a cette tendance aussi depuis quelques années où l'email est revenu en grâce. Donc, il y a aussi une logique de volume derrière. On aura l'occasion d'en parler aussi. Comment réussir à se faire sa place finalement dans des boîtes mail qui sont pas saturées, enfin, qui commencent à être de plus en plus saturées. Mais si on gère bien, on peut éviter cette saturation-là, on va dire. Mais si on devait résumer et dire aux gens qui sont convaincus, OK, du coup, c'est quoi un bon email? Et chacun a sa propre définition, je pense, de ça. C'est quoi la tienne à ce niveau-là?
Pour moi, un bon email, c'est un email qui remplit sa promesse. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'ai envie de raconter l'histoire de mon entreprise, raconter l'histoire de mon e-commerce, comment je l'ai créé, comment j'en suis venu à là, en fait, tu sais. Si mon objet d'email, il te dit, dans cet email, gagner 10 000 euros par mois, et alors que dans le contenu de l'email, je te dis un truc qui est complètement différent. Et ben en fait, tu n'as pas rempli ta promesse. Et en fait, c'est ça qui est hyper important et que de nombreuses marques ne font pas, c'est ne pas remplir leur promesse. Ton objet d'email, ça doit attiser la curiosité d'ouvrir l'email et de raconter quelque chose qui a de la valeur. Donc, tenir ta promesse et aussi partager un contenu qui a de la valeur pour ta cible. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je te dis une bêtise. J'adore le sport, j'adore la course à pied. Si tu me partages un contenu qui ne met pas en avant la course à pied, tu me partages un contenu qui me met en avant la course à pied, c'est nul, faites la danse classique, et ben moi pour le lecteur, ça va pas remplir mon objectif, ça va pas remplir l'objectif que tu en avais. Donc je me dis c'est pas un bon email. Un bon email, c'est quelque chose qui apporte fondamentalement quelque chose à la personne. Ça peut être une information, apprendre quelque chose, donc une information. Ça peut être de shifter une croyance, par exemple, encore une fois, je fais de la course à pied, je débute. Moi, je pense que faire plus de 10 km de course à pied, c'est impossible. Et si tu arrives à m'expliquer que c'est possible de faire plus de 10 km à pied en moins d'une heure, et tu vas shifter une petite croyance dans ma tête. Et une fois que je vais avoir lu ton email, je vais dire « Ah ouais, c'est intéressant, si je prends ce petit complément alimentaire, je peux aller un tout petit peu plus vite et battre le record que j'avais et que je ne pensais inatteignable. Donc, encore une fois, il faut, c'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à la personne, que ce soit apprendre quelque chose, comme je te dis, shifter une croyance, vraiment un truc qui fait passer un bon moment à la personne. Alors, il ne faut pas que ce soit une série Netflix d'une heure. C'est juste de partager un contenu qui intéresse, qui divertit et qui soit mémorable. J'aime bien dire que les emails, faut faire en sorte qu'ils soient divertissants, engageants et mémorables. Et c'est ça pour moi le vrai but c'est ça un bon email.
Ouais, et en fait, là où il y a un piège potentiel là-dessus, c'est de se dire que tu peux avoir des bons résultats sur un email qui ne remplit pas sa promesse, à mon avis, parce que tu as eu les ouvertures qui vont bien.
Exactement.
Et si tu regardes que ça, par exemple, bah, ok, cool, les gens l'ont vu et tout. Et en fait, bah, tu ne vois pas cet effet, surtout si tu avais peu de CTA, donc tu ne peux pas jauger sur un taux de clic, etc.
Ouais.
Mais en fait, tu vas avoir perdu des points de street cred. D'email street cred, ouais, sur le futur, et finalement tu vas le payer pour la durée. Donc ça, il y a des pièges là-dessus.
Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'un bon email, c'est un email qui fait avancer la personne vers ton objectif final. Donc ton objectif final, ça peut être de vendre ton produit, mais c'est pas parce que tu envoies un email que tu tires pour tuer, en fait. C'est-à-dire tu tires pas pour faire une vente à chaque fois, tu tires pour, encore une fois, faire avancer les gens petit à petit vers la fin. Tu joues au golf, t'es à 500 mètres du trou, tu ne tires pas une grande mine pour arriver dans le trou, c'est impossible. Non, tu te dis, bah, bien, je vais essayer d'avancer un petit peu ma balle. Donc, tu tapes toutes tes forces pour que ça approche. Et bien, tu n'es plus qu'à 100 mètres. Ok, je vois un petit peu le terrain, il est un petit peu comme ça. Viens, j'approche un peu la balle. Hop, ça y est, je ne suis plus qu'à 25 mètres. Et bien, ça, c'est une bonne partie de golf. Donc, un email, c'est pareil. C'est juste avancer petit à petit vers l'objectif final.
Ouais, c'est la métaphore un peu plus originale que celle du mariage où tu ne demandes pas quelqu'un en mariage au premier rendez-vous.
Ouais.
La métaphore du golf, j'aime bien parce qu'en plus... c'est un jeu par itération, en fait. Donc,
exactement.
Là, pour le coup, dans ce côté où petit à petit, tu vas te rapprocher, mais au final, tu sais jamais si ton coup, il va vraiment marcher. Donc, tu en as toujours un qui est prévu d'avance, etc. Donc, vraiment sympa. On a commencé tout doucement à évoquer les erreurs qu'on retrouve en email marketing. Il y en a énormément des erreurs, pour le coup. Et là, on parle pas forcément de j'aime pas tel ou tel, ouais, design d'email. Hein. Il y a vraiment des règles assez fondamentales qu'on peut difficilement bypasser. Ce serait quoi pour toi les principales erreurs à éviter ?
Il y a beaucoup, ouais, comme tu dis, il y a pas mal d'erreurs. Notamment, déjà, moi, je vois une chose qui revient souvent, c'est de traiter plusieurs sujets à la fois dans le même email. Je m'en souviens, un coup, j'étais abonné à une newsletter d'un e-commerçant qui vendait des fringues écolo, je ne sais plus ce qu'il faisait. Et en fait, il a fait un email en rentrant de vacances au mois de septembre, ouais, je crois, ce mois de septembre, et il dit « Excusez-moi, je ne vous ai pas écrit depuis longtemps, blablabla. Alors, j'étais en vacances. » Donc, il y avait une photo de la plage. Il était à la plage, dans l'eau, ou bref. Donc, il disait qu'il était en vacances, je ne sais pas où, Cap d'Agde, ou je ne sais pas où. Ensuite, il disait qu'il avait une nouvelle collection qui sortait. Ensuite, il montrait des témoignages clients. Ensuite, il montrait je ne sais plus quoi. Et en fait, notre cerveau, il ne peut pas traiter tant d'informations à un moment donné, tu vois. L'information doit être simple, concise et précise. Donc, c'est pour ça qu'une des erreurs, c'est de vouloir trop dire de choses dans le même email. Un email, c'est une idée, un contenu, un appel à l'action différent. Donc, encore une fois, c'est vraiment de traiter trop de sujets à la fois. Si tu as 5 choses à dire, bah, fais 5 emails, c'est tout simplement. Parce qu'encore une fois, si tu me dis trop de trucs, je vais réfléchir, ça va me casser le cerveau et les gens vont se barrer. Donc, ce n'est pas le but. Ensuite, une autre erreur que je vois souvent, c'est de ne pas apporter en fait, de la valeur dans tes emails. C'est-à-dire, encore une fois, tu ne dis rien d'intéressant pour le lecteur cible. S'il ouvre ton email, il le lit et ça ne lui apporte rien, ça le fait chier, c'est ennuyeux, c'est nul, et bah, ça, c'est une erreur, en fait, parce que les gens se disent « Ok, moi, je ne me suis pas abonné à un truc qui est nul. » C'est comme quand tu regardes une série Netflix. Si au bout de 2 minutes, tu te rends compte que bah, ça ne t'accroche pas trop, ça ne t'apporte rien, ce n'est pas divertissant, et bah, t'arrêtes, donc tu te désabonnes. Et bah, c'est exactement la même chose. Autre erreur que je vois aussi, c'est de parler que de soi. C'est-à-dire, nous faisons ci, nous faisons ça, je. Non, en fait, les gens, ils s'en foutent de toi. Les gens, ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Donc, faut leur parler de leurs problèmes, faut leur parler de leurs désirs, faut leur parler de ce qu'ils veulent pour que derrière, tu crées cette relation de confiance et qu'ils se disent « Ok, j'ai envie de faire confiance à cette marque plutôt qu'à une autre. » Ensuite, je vois aussi souvent, c'est d'être ennuyeux, c'est-à-dire des emails qui sont fondamentalement ennuyeux, ça ne dit rien d'intéressant. Tu les lis, tu es là « Ouais, ok, super. » Enfin, ça rejoint un petit peu le point numéro 2 de la valeur. C'est juste de ne pas apporter de la valeur assez rapidement et au lecteur, il faut qu'ils se disent « Ok, en fait, ça m'a saoulé, j'ai pas envie d'aller plus loin. » Donc ça, c'est une grosse erreur. Et une cinquième erreur que je vois souvent, c'est d'utiliser du jargon que le lecteur ne comprend pas. Donc souvent, il y en a qui veulent, tu vois, faire un peu les malins avec du jargon un peu professionnel ou du jargon de leur secteur. Eh ben, les gens ne sont pas forcément éduqués à ce jargon-là, tu vois. Donc de dire, par exemple, je sais pas, tu es dans le CBD ou tu es dans la santé, on utilise des molécules, B4, machin, en fait, on s'en fout. Explique-nous juste que c'est bien. Et me partage pas du jargon, c'est du chinois en fait, pour moi j'y connais rien, tu vois. Donc l'idée c'est ça, c'est de partager du jargon dont la cible va comprendre ce que ça veut dire en fait.
Ouais, il faut s'adapter au niveau de lecture de l'interlocuteur, et pour le coup, parce que t'en as qui pourraient objecter en disant oui, mais attention, il faut qu'on est quand même sur. Surtout là, quand on est dans le domaine des allégations de santé ou ce genre de trucs, il faut être précis, etc. Mais en fait, l'email c'est pas forcément le lieu pour ça, et il faut vraiment distinguer. C'est peut-être une erreur bonus qu'on peut rajouter, mais il faut distinguer la communication sur le site web, la communication Exactement. Dans les créas, etc., et la communication dans les emails où finalement, tu parles à la majorité de ton audience, et je suppose que même si tu vends des compléments alimentaires, même si tu vends du CBD, même si tu vends des trucs qui permettent de mieux dormir, au final, tu t'adresses pas que à des médecins, tu t'adresses pas que à des professionnels de santé, tu t'adresses à des gens qui ont un problème. Donc, tu t'adaptes à leur niveau de discours, et ça peut être autant le mec qui a du mal à dormir et en fait, il est boulanger et du coup, comme il est complètement déphasé, il a besoin d'un petit supplément, mais il n'a pas fait médecine. Tu peux avoir quand même une infirmière qui aussi est déphasée, mais qui va comprendre un peu plus. Mais tant pis, parce qu'elle comprendra aussi la vulgarisation, finalement. Tout le monde comprend la vulgarisation. Et c'est une fois sur le site web, elle pourra être rassurée avec le reste. Donc, bien différencier peut-être le niveau de communication dans l'email, c'est assez important aussi. Et c'est pour ça que tu as une charte textuelle qui peut être assez différente de l'email versus le site web, finalement.
Exactement.
Même si sur le site web, tu ne vas pas jargonner à 100%.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je suis convaincu que ton discours, ce que tu dis, ton discours sur ton site internet et sur ton email, ça, c'est pas du tout la même façon de communiquer. Moi, j'aime bien dire qu'un email, en fait, c'est un trampoline. Les gens, tu les lâches en haut du trampoline, et le but, c'est qu'ils rebondissent le plus haut possible pour qu'ils arrivent sur ton site internet. Ton email, t'es pas là pour les convaincre que ton produit, c'est le mieux, qu'on ton machin. Non, t'es là pour attiser leur curiosité, t'es là pour les titiller, leur faire comprendre qu'il y a un truc ils devraient aller plus loin dans la compréhension. Tu veux aller plus loin, clique sur le bouton d'appel à l'action sur cet email. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une mini page de vente, en fait, ton email. Loin de là, c'est au contraire, c'est vraiment titiller cette petite chose, ce petit bénéfice. Tu vois, c'est attiser tout ça pour donner envie aux gens de cliquer. Donc, t'as pas besoin de faire du jargon dans ton email, juste explique à la limite qu'il y a un truc qui peut les aider à X, Y, Z. Cette petite chose a permis, je dis bêtise, à 20 000 personnes de faire ça, mais c'est pas ce que tu penses. Si tu as envie de savoir quoi, clique ici. Et ben là, tu vois, il y a un petit peu de curiosité. Alors, je l'ai mal dit, mais l'idée, c'est ça, quoi.
Ouais, et puis l'idée, c'est vraiment de rester sur des logiques de micro-conversion. C'est un peu comme avec ta métaphore du golf, finalement. T'as pas de panier au sein de l'email, de toute façon. Donc, les gens doivent aller sur ton site web à un moment ou un autre. L'objectif de l'email, c'est de faire la passe, finalement, et après, charge au site web de convertir. Ou s'ils achètent toujours pas, charge ensuite aux emails de panier abandonné et autres. On en parlera après. Mais de prendre le relais. Mais là, pareil, tu vas revenir sur une micro-conversion qui n'est pas achète, finalement. C'est reprendre ton parcours d'achat, un peu différent dans la logique. Mais pour le coup, il ne faut pas en demander trop. Il ne faut pas être trop gourmand, finalement, sur l'email. T'as pas un one-click pay dans l'email qui va permettre de déclencher la conversion tout de suite. Tu veux juste remettre les gens dans le jeu ou pouvoir les récupérer et aller un peu plus loin dans le discours. Donc, c'est une logique de micro-conversion qui est complètement différente d'une logique de conversion achat ou de conversion de lead. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, je pense, dès le moment où tu vas écrire ton email, ou même avant ça, finalement, quand tu vas faire ton planning éditorial, quand tu vas faire tes automatisations, tu dois repenser à quelle est la prochaine action, la prochaine petite action en baby steps que je vais demander à mon utilisateur. Et finalement, l'idée, c'est vraiment de se dire, un email a un objectif, et si cet objectif-là, il est pas clair dès le début, ton email, tu sais que ça va pas bien marcher. Et du coup, la grande question qu'on va se poser derrière, c'est comment tu poses l'objectif d'un email? Comment tu le définis?
C'est une nouvelle bonne question. Alors, moi, je pense que ça dépend le contexte. C'est-à-dire, est-ce que tu écris un email de séquence email automatisée? Est-ce que tu écris un email de newsletter? Enfin, est-ce que c'est un email de vente, un email de promo, tu vois? Là, ça, il faut se poser la question. Où est-ce qu'on est? Quel est le but aujourd'hui de pourquoi on veut envoyer cet email? Si on veut envoyer cet email, encore une fois, pour faire des ventes immédiates, là, le contenu, tu vois, il faut l'adapter. Si on veut faire de l'emailing de branding, moi, j'appelle ça l'email de branding, c'est-à-dire qui sert l'image de marque, c'est-à-dire encore une fois d'avancer la balle vers le trou du golf, enfin, tu vois, faire avancer la balle de golf, ça dépend de tout ça. Et après, c'est se dire, si c'est une séquence email automatisée, dans quel état se trouve mon lecteur, mon abonné ou mon contact, tu l'appelles comme tu veux, dans quel état se situe la personne qui va lire mon email. Cette personne n'a jamais acheté chez moi encore, elle a reçu que 2 emails, donc là on va lui envoyer un 3e email de bienvenue. Elle a déjà reçu 7 emails et 7 emails. Qu'est-ce que je peux lui dire derrière pour continuer de la faire avancer dans le cycle, pour continuer de shifter sa croyance, de la faire un petit peu changer d'avis? Peut-être que c'est de la rassurer, peut-être que c'est de lui montrer qu'il y a d'autres personnes qui sont passées là avant elle. Viens, on lui met un témoignage, on lui met un ou deux témoignages clients. Après, ça peut être, je ne sais pas, si tu fais une séquence email de vente pour un produit ou pour tout ça, peut-être que dans les derniers emails, tu peux te dire, je lui ai déjà partagé plein de trucs, j'ai créé de la confiance, j'ai joué sur le côté émotionnel. Les premiers emails, j'envoie beaucoup d'émotions. Tu vois, on prend souvent nos décisions d'achat sous l'émotion et on rationalise plus tard. En début de séquence, je fais de l'émotion et en fin de séquence, je rationalise. Donc là, on est en fin de séquence. Qu'est-ce que je peux dire pour rationaliser? Peut-être que je peux lui expliquer pourquoi le produit fonctionne, pourquoi il est bien, pourquoi, tu vois, d'être vraiment dans cette phase-là. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Je n'ai pas de réponse type. C'est juste se poser et se dire, OK, quel est l'objectif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et en fait, faire le pont entre ces deux points. OK, le pont, c'est peut-être de partager ce type de contenu pour aider la personne à avancer dans le cycle de vente, encore une fois.
Ouais, donc tu as quand même cette logique de contextualisation de l'email à reprendre en compte et peut-être dézoomer le plus possible et se dire, OK, en fait, qu'est-ce que la personne attend à tel moment? Qu'est-ce que j'attends de la personne? Quelles émotions j'ai envie de faire passer? Quels infos j'ai envie de faire passer? En fait, tu n'es pas obligé d'écrire tout de suite le mail et de prendre le stylo, la plume ou quoi que ce soit et de direct y aller. En fait, limite, le temps de brief est aussi important finalement que le temps de rédaction, parce que c'est déterminé si ça va faire mouche ou pas, en fait.
Exactement. Je rebondis sur ce que tu dis. Le temps avant de créer l'email, il est encore plus important que le temps de rédaction. Tu sais, c'est un peu la loi de Pareto, 80-20. 80% de ton temps, tu dois le dédier à savoir ce que tu vas dire, le contexte, savoir tout ça. Et 20% de ton temps, si tu as pris ce temps des 80 avant, les 20%, ça va être tranquille. Tu vois, tu vas savoir exactement ce qu'il va falloir dire. Tu vas être beaucoup plus pertinent. Et donc, moi, je conseille toujours de prendre... Enfin, moi, quand je fais un calendrier édito pour des clients, il y a une case objectif. Donc, l'objectif de cet email, juste en une phrase, l'objectif de cet email est de blablabla. OK. Une fois que tu as mis ça sur papier, c'est beaucoup plus facile d'écrire un email que d'attendre devant ton ordi, de te tenir la tête comme ça. Oh putain, qu'est-ce que je vais bien pouvoir envoyer? Tu vois, c'est compliqué. Alors que si tu le mets en amont, derrière, c'est facile.
Ouais, finalement, c'est un peu comme si tu fais un exploit sportif sans préparation. Finalement, tu risques la tendinite, tu vas avoir la crampe, etc. Au final, si tu as pris le temps de bien t'échauffer, si tu as fait la petite récup, si tu as pris ta petite boisson énergétique avant et tout, au final, dès que le coup d'envoi il est donné, ça part tout de suite, en fait. Donc, il ne faut pas se ruer, je pense, sur les claviers. Et limite, ça peut faire pire que mieux, parce que le problème de l'email, et ça, on en reparlera potentiellement aussi, c'est de se dire que si tu fais une pub méta qui ne marche pas, tu as perdu de l'argent. Si tu fais un email qui ne marche pas, tu as perdu potentiellement à la fois des abonnés, qui sont des abonnés, et tu as perdu de la crédibilité. Donc, c'est important quand même d'y réfléchir, limite, plus que sur une créa méta où tu as beaucoup plus cette logique d'A/B testing pas à la cool, parce que tu as quand même du budget derrière, mais le coût de l'A/B testing en email, il paraît plus facile parce que tu mets pas du budget média en face, mais pour autant derrière, tu peux pas non plus A/B tester des versions complètement aberrantes, parce que les pertes qu'il y a derrière, en crédibilité, en abonnés, etc., elles sont beaucoup plus importantes parce que c'est des pertes cumulées, en fait. Et nous, on cherche plutôt à avoir des gains cumulés dans le temps.
Exactement.
Donc ça, c'est quelque chose à peut-être pas oublier à remettre en avant. Et tu as un point quand même, au moment où tu passes à la rédaction, et je sais qu'il y a pas mal de monde qui galère à ce niveau-là aussi, c'est quand tu fais un email, finalement, c'est un peu les bases du copywriting, mais chaque phrase doit faire donner envie de lire la suivante, etc., etc., jusqu'à arriver au CTA. Mais en fait, comment tu fais, toi, pour garder l'attention du lecteur au sein de l'email et que ce ne soit pas juste des mots qui sont envoyés dans une bouteille à la mer, un email à la mer? Comment tu fais pour garder cette attention, justement?
Je pense déjà qu'il faut s'intéresser fondamentalement à qui est notre cible. Qui est notre cible? Encore une fois, quelles sont ses frustrations? Quels sont ses désirs? Tout ça, il faut le savoir parce que tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un si tu ne le connais pas. C'est comme en vente, si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il faut connaître la personne, il faut savoir un peu ses problématiques, il faut savoir ses déclencheurs d'achat, il faut savoir ses freins, ses croyances, tout ça, il faut s'y intéresser. Donc déjà, il y a un gros travail qu'il faut faire, je pense, c'est faire ce que j'appelle la recherche avatar. C'est-à-dire, tu prends 2 jours dans ton agenda et tu vas essayer de créer un portrait robot de la personne à qui tu... Enfin, ta cible, qui elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle n'aime pas, ce qui l'empêche de passer le cap, ce qui l'empêche d'acheter ta solution. Une fois que tu sais tout ça, bah, derrière, c'est assez simple, en fait, de parler les mots de la personne, encore une fois, parce que tu sais ce qu'elle a envie de savoir. Moi, par exemple, demain... Je suis un bodybuilder, je suis à fond dans la muscu. Tu fais un email et tu me dis, première phrase, c'est « Qu'y a-t-il de plus frustrant que de sortir de la salle et de ne pas avoir de congestion dans ses biceps ?» C'est une connerie, hein, j'ai ça comme ça d'un coup même. Et bien, ça va me parler parce que je fais du sport. J'ai qu'une envie, c'est de grossir mes biceps, éclater mon t-shirt, être comme un dingue. Et bien, du coup, ça va me parler parce que je vais avoir envie de savoir ce que tu vas me dire. Et derrière, ça, c'est la phrase d'accroche. Donc là, t'accroches mon attention. Derrière, tu me dis, je te dis une bêtise. Hein. Saviez-vous que 95% des gens s'entraînent mal, font des bêtises avec leur plan d'entraînement, mais aussi, il y a une autre chose qui te font mal. Et donc là, t'as envie de savoir c'est quoi cette autre chose. Donc là, tu gardes l'attention. Après, tu fais ta troisième phrase. La plupart des gens qui s'entraînent font ci, ne prennent pas de compléments alimentaires, alors que prendre des compléments alimentaires, blablabla. Bla, 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 bla. Et derrière, là, tu as gardé l'attention parce qu'encore une fois, tu as intéressé la personne. Tu lui as parlé dans ses mots, tu lui as parlé dans son langage et c'est ce qui l'intéresse. Et c'est encore une fois fondamentalement ce que la personne a envie d'entendre. En fait, tu résous un petit peu la solution, tu teases la résolution de la solution de la personne. Donc, elle a envie de savoir et derrière, tu lui dis « Ouais, mais peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a un truc que tu oublies de faire qui est absolument fondamental, c'est de ne pas... prendre deux créatines. Et bien justement, on a développé une créatine française dans une petite usine en Savoie. Blablabla. Clique ici pour découvrir cette créatine. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est encore une fois d'accrocher l'attention à quelque chose que les gens ont envie d'entendre. Tu parlais de copywriting, mais finalement, c'est ça. C'est AIDA. Accrocher l'attention, intéresser la personne, lui faire désirer ta solution et faire un appel à l'action qui donne envie. Après, tu as d'autres frameworks. Tu as le framework PAS. Problème, agité, solution. Donc c'est toutes des petites choses comme ça qui permettent de garder l'attention. Et pour terminer, je dirais aussi que moi, je fais souvent le parallèle au marketing ou à la vente, à la drague en fait. Tu vois, c'est con, mais de la drague. C'est-à-dire que, je sais pas, tu es dans un bar, tu rencontres une personne, ce que tu as envie de faire, bah, tu vas lui parler, tu vas poser des questions, tu vas essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Enfin, je dis elle parce que voilà, mais l'idée c'est ça. Et petit à petit, tu vas avancer. C'est comme ça qu'à la fin, bah, tu dis, bah, est-ce que je pourrais avoir ton numéro de téléphone? L'idée c'est ça. C'est s'intéresser à la personne et poser des questions pour faire avancer et que garder l'attention de cette personne.
T'as vraiment cette logique de réussir à faire avancer. C'est vraiment un peu comme un jeu de plateau. Tu fais avancer ton pion. C'est pas très valorisant de dire un pion, mais on voit l'idée. En fait, tu fais avancer petit à petit. Tu lances les dés. Chaque email, chaque ligne, chaque mot. C'est un point sur le dé en fait qui va permettre de faire avancer les gens et cette logique de progression en fait qu'il faut pas oublier. On rejoint un peu ta métaphore du golf, mais de dire rien n'est jamais acquis, et même on le verra juste après, mais même quand les gens ont acheté, rien n'est acquis, il faut les faire revenir et les fidéliser et les transformer en ambassadeurs, etc. Mais au final t'es sur un jeu de plateau infini en fait, et donc ça redescend jusqu'à bah oui, en fait, à tel moment, je vais dire telle chose parce que je sais que ça va faire progresser le cheminement mental de mon prospect vers l'action que j'attends de lui à tel ou tel moment. Finalement, c'est quelque chose qui peut peut-être driver une vision, et pour ceux qui auraient du mal à démarrer sur une stratégie d'email marketing, mais ça, pareil, on pourra en reparler. Mais cette logique de progression, c'est quelque chose qui, au moins, permet de dire « Ok, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée à ce moment-là du parcours. » Maintenant, l'argument qui peut venir aussi là-dessus, c'est de dire oui, mais en fait, les gens lisent pas, etc. Bon, ça, on sait que c'est faux. Et en tout cas, s'ils lisent pas vos emails, c'est probablement que vous n'avez pas fait ces différentes étapes qu'on a évoquées et que vous n'arrivez pas à accrocher cet intérêt, parce qu'il y a encore de la place pour les choses intéressantes aujourd'hui. On dit que les gens ont des temps d'attention qui sont de plus en plus courts, etc. Non, en fait, c'est juste qu'il y a de plus en plus de contenu, les gens ont de plus en plus le choix. Donc en fait, ils ont de plus en plus le choix de zapper vers un autre contenu. Tu connais l'exemple de Netflix, les gens peuvent zapper entre 10 millions de séries, et ben là, ils peuvent zapper entre 10 millions de marques, 10 millions de contenus, etc. Il faut juste être le bon contenu qui arrive à les accrocher. Maintenant, Et on a une chance quand même sur l'email, c'est qu'on a fait le tour, je pense, de comment on décide si un email est bon ou pas et par où on commence. Mais quelque chose qui revient très souvent, et je sais que ça t'agace probablement autant que moi, c'est que tu as quand même beaucoup de templétisation dans notre métier, où tu as des emails où tu enlèves le logo, bah, au final, tu sais pas dire qui est la marque. Est-ce que tu as un avis finalement sur cette ultra templétisation de l'email marketing aujourd'hui?
Ouais, bah, pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'email marketing n'est pas assez pris au sérieux. Et c'est pour ça que tout le monde veut faire des templates et faire un truc rapide, tu vois. Viens, on se fait une petite template vite fait. Et du coup, après, on arrête et c'est bon, c'est vite fait. Après, on n'a plus qu'à remplir cette template et c'est tranquille. Bah, en fait, moi, je trouve que toutes les templates se ressemblent aujourd'hui. C'est un fait. En e-commerce, toutes les templates d'email se ressemblent. Et donc, pour moi, le meilleur moyen de ne pas sortir du lot, c'est de faire comme tout le monde. C'est-à-dire de faire des templates avec un gros logo en haut, le plus gros possible, le plus lourd possible. Ensuite, en bas, de mettre un tout petit mot ou deux. Ensuite, plein d'images, plein de recommandations de produits. Et puis, un petit appel à l'action là-dessus. Et puis, après, plein d'images. Et en fait, ça, c'est vu et revu. Et en fait, pour moi, encore une fois, c'est le meilleur moyen de pas se différencier, de ne pas créer de rapport avec son audience. Donc, je pense que moi, c'est une bêtise de faire comme tout le monde. Alors, je ne dis pas que je suis anticonformiste parce que ce n'est pas vrai, mais moi, je pars toujours du principe que si tout le monde fait une chose, il faut faire autrement. Il faut essayer de trouver une autre solution. Et donc, moi, c'est pour ça que les emails que je fais, je mets l'accent sur le texte plutôt que sur le design et sur l'aspect templétisé. Et puis, en plus, tu sais, quand tu reçois un email très templétisé, tu te dis tout de suite, ah, c'est bon, c'est vu et revu, tu vois. Les gens ne sont pas dupes, hein, ils savent très bien que l'email marketing, ça existe. Tu as l'impression que c'est le département marketing qui a codé l'email pendant des jours et des jours. Alors que si tu prends le contre-pied et tu fais un petit email beaucoup plus sobre, beaucoup plus conversationnel, certes, il n'est pas très beau, mais tu vois, ça crée une dissonance parce que tu vas recevoir un email avec beaucoup plus de texte de la part d'une marque e-commerce. Tu dis, putain, mais attends, qui c'est qui m'écrit? Ou tu vois, ça peut créer une petite dissonance, encore une fois. Je prends souvent l'exemple de la marque Archi, je ne sais pas si tu connais, c'est du vinaigre. Souvent, la fondatrice, elle fait des emails très simples et du coup, ça t'interpelle. Tu te dis, attends, est-ce qu'elle m'a écrit à moi ou ça pourrait être encore une fois un email d'une personne que tu connais, tu sais. Ça pourrait être un email un peu important. Je ne dis pas que ça peut être les impôts, tu vois, mais ça peut être une personne importante, une entité importante. Versus un email qui brille, qui clignote dans tous les sens, c'est Noël, c'est un sapin de Noël. Donc, moi, je pense qu'encore une fois, les templates, c'est bien, mais il faut vraiment y aller avec parcimonie. Et si tout le monde part à droite, ben, partez à gauche.
Quoi. Ouais, bah, ça me fait penser aussi, tu as une marque de pompe qui fait ça, je crois que ça s'appelle Jacques et Déméter. J'adore parce que c'est une des premières marques où j'ai vu, ils envoient des emails, tout le texte, et c'est toujours très prononcé, il y a un avis qui est marqué dedans. Par exemple, au premier jour des soldes, ils vont t'envoyer limite un manifeste crash sur le phénomène des soldes, etc. Mais en t'expliquant pourquoi, ils vont te réexpliquer les marges, etc. Et c'est pas plein de petits pictos et tout. Je dis pas que les pictos et tout, c'est pas sympa, parce que pour le coup, c'est très ludique, etc. Mais là, tu sens que les mecs, ils assument en mode bah, on n'a pas de budget sur l'email marketing, on vous écrit quand même, point. Et t'as l'impression qu'il l'aurait envoyé qu'à toi, ça aurait été le même message. Et là, pour le coup, bah, tu vois, j'ai jamais commandé chez eux, mais je te cite la marque comme ça, parce qu'il y a un lien qui est créé, où en fait, bah, t'es en infusion directe, alors que, bah oui, ils auront envoyé le mini-catalogue produit, comme t'as parfois dans les emails où t'as 26 vignettes, etc. Bah, en fait, ouais, c'est comme recevoir un catalogue dans ta boîte aux lettres, en fait. Tu t'en fiches un peu.
Exactement. Et puis, le fait d'avoir un minimum de texte, ça te permet d'avoir le temps de convaincre la personne, de lui montrer pourquoi tu envoies cet email versus... En fait, c'est du spam. Tu sais, l'autre coup, j'ai été à un salon avec ma nana du bien-être à Lyon. Et en fait, quand on est revenu sur le parking, il y avait un flyer qui était collé sur le pare-brise de ma bagnole. Et en fait, j'ai regardé comme ça et ça disait rien. C'était que des photos, des machins, tout en couleur. Et en fait, ça me fait penser à ça, moi, l'email marketing. Ou alors, pour les fêtes de Noël, je sais pas, si toi, tu as reçu énormément de courriers dans ta boîte aux lettres, tu reçois plein de catalogues, plein de machins et... C'est hyper agressif, je trouve. Alors que si tu as une petite lettre blanche qui s'y glisse au milieu, je suis persuadé que 100% allez, 99% des gens vont choisir de lire la lettre blanche en premier. Parce qu'encore une fois, ça peut être quelqu'un d'important, ça peut être un truc grave, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est très intéressant, Jacques et Déméter. J'ai interviewé justement sur mon podcast la personne qui écrit les emails de chez Jacques et Déméter. Malheureusement, problème d'enregistrement. Il n'y a plus l'épisode.
Mince, tu nous laisses cette mise en bouche accomplie. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le courrier papier, parce qu'en plus, On m'a envoyé hier une étude sur les émotions que ressentent les gens quand ils reçoivent un courrier papier. Et t'as la curiosité qui était assez haut pour le coup. Et ça me fait penser que nous, on avait eu des très bons retours côté agence quand on avait fait les vœux avec manuscrit, tu sais, qui simule l'écriture manuscrite. Et je sais qu'il y a des e-commerçants qui font ça, où du coup, t'envoies un courrier manuscrit, enfin manuscrit, fictivement manuscrit. Il faut imaginer des imprimantes 3D qui écrivent avec un stylo. Si vous arrivez à vous représenter ça, et c'est envoyé dans une enveloppe qui est timbrée, comme si c'était vraiment quelqu'un qui l'avait fait. Ça, pour le coup, il y a un petit effet waouh aussi, et ça s'intègre même dans des scénarios d'email marketing, pour le coup. Ils ont tous des API où tu peux connecter, etc. Mais par exemple, tes ambassadeurs, tu peux aussi sortir de l'email un moment pour leur envoyer ce genre d'éléments. Donc ça, pour le coup, il y a une petite carte à jouer, parce que pour le coup, c'est encore moins saturé.
Et je pense pas qu'il faut associer la beauté d'un email à sa pertinence et sa conversion. C'est pas parce qu'un email est très beau, très bien designé, qu'il y a des belles couleurs, qu'il y a une belle charte graphique, que tout est bien respecté, qu'il va convertir. Ça veut rien dire du tout. Mais c'est pas parce que voilà, je sais pas, t'as la plus belle veste de la soirée que tu vas, je sais pas, j'en sais rien. Mais l'idée c'est ça. C'est pas parce que c'est beau, ça marche. Rien à
Ouais, que
voir.
tu auras le plus mignon au téléphone.
Par exemple, ouais.
Mais ouais, en fait, tu as des mecs qui sont là pour faire plaisir au service marketing qui l'a envoyé, ou tu es en mode ah ouais, j'ai quand même mis 2000 euros de graphisme sur la production de cet email, etc. Ben, en fait, l'utilisateur qui le reçoit, il s'en fout complètement de ça. C'est vraiment pas dans les critères qui vont décider s'il le lit ou pas, s'il clique ou pas. Il faut pas se tromper de combat, en fait. Et
Exactement.
tu peux mettre une équipe marketing de 20 personnes sur un email, s'ils respectent pas les codes classiques, en tout cas, je dis les codes en mode parler à l'intérêt de la personne qui va le recevoir, enfin, vraiment les basiques, hein. Je ne parle pas des codes de template de maintenant, mais si elles font abstraction de ça et qu'elles sont juste là à se faire plaisir, un peu comme tu te réunis, tu fais un logo sans jamais le challenger avec le marché, etc., ben, en fait, tu sais pas si tu vas pas faire un four avec cette chose-là sur laquelle tu as mis beaucoup d'énergie. En fait, le marché, il s'en fout que tu aies mis de l'énergie ou pas, finalement.
C'est ça. Et en fait, je pense que le problème qu'on a, en tout cas en France, moi je suis un petit peu le marché US quand même, et aux US, ils font quand même pas mal d'emails très moches, très copyrightés, et ça marche très bien. Le problème qu'on a en France, c'est que comme tout le monde fait ça, tout le monde se dit, bah si tout le monde fait ça doit marcher, alors je le fais. Bah, en fait, et si on challenge pas, comme tu dis, si on challenge pas ça un petit peu, bah forcément, on reste dans la même configuration. Alors que si tu dis, bah, j'ai envie d'essayer, viens, je fais un AB test, tu vois, sur des emails. J'envoie un email très brandé, que j'envoie ça, enfin, tu vois, très brandé, très coloré. Et si je me dis, bah, je prends le contre-pied, j'essaye de voir sur un petit segment de ma liste. Tu vois, récemment, j'ai accompagné un mec qui veut se lancer dans l'email marketing, et il accompagne une marque qui vend des montres, tu vois, des montres un peu de luxe. Et il me dit, ouais, mon client et tout, il est pas trop. Enfin, moi, je lui parlais un peu de ma méthode, il a acheté ma formation. Et je lui explique, enfin, dans ma formation, je lui expliquais certaines choses, que voilà, c'était intéressant de faire des emails un peu plus textuels pour changer un petit peu. Et il me dit, ouais, j'en ai parlé avec mon client, il n'est pas trop chaud d'essayer et tout. Je lui dis, bah écoute, fais un AB test sur un petit segment de la liste. Donc, il a fait deux AB tests sur, je sais plus, je te dis une bêtise, 30% de la liste et 30% de la liste. L'email brandé comme son client voulait, versus un email beaucoup plus conversationnel, beaucoup plus humain, beaucoup plus textuel. Il a, alors je sais plus en termes de conversion combien, mais. Il me semble, ah ben la liste devait pas être très grande non plus, mais sur un email, il me semble qu'il avait fait genre, je sais pas, 500 balles, et sur l'autre email, très humain, encore une fois, il avait dû faire, je sais pas, 8 000 ou 9 000 balles, quoi. Enfin, il y avait quand même une sacrée différence entre deux emails.
Ouais, donc tu as quand même des mini use cases comme ça. Et comme tu dis, l'AB test, parce que j'ai un peu sous-vendu tout à l'heure l'AB test en disant attention, ça peut être risqué. Ça peut quand même t'aider à sauter le pas et à faire un peu différent de ce que tout le monde fait finalement. Et peut-être qu'un truc qui a causé des préjudices dans le domaine de l'email, c'est de dire bah, il y a les bonnes pratiques de design, etc. C'est ça. Et du coup, tout le monde se calque sur ce truc-là. Et au final, ça devient transparent. On a eu un peu le même effet côté site web avec les templates Shopify que tu retrouves partout, où finalement tous les sites web se ressemblent et sont exactement les mêmes, bah, on a le même effet sur l'email, où aujourd'hui de toute façon tout le monde a plus ou moins les mêmes solutions, qui ont déjà les templates préfaits et où les gens viennent juste remplir les cases. Bon, bah, finalement, c'est facile d'être transparent, comme on disait, et si tu fais pas ce pas de côté, mais on dit même pas de faire un switch on-off, hein, ça peut passer par des A/B tests, et finalement se rendre compte, comme dans ton exemple, bah, ça peut être beaucoup plus rentable de faire autrement finalement, de faire ce petit pas de côté.
Moi, j'aime bien dire que les emails que j'envoie pour mes clients, c'est des emails hybrides, c'est-à-dire 80-70% c'est du texte et 20 à 30% c'est des images, parce que des fois, il faut monter le produit aussi, tu vois, c'est normal. Hein. C'est pas un email Gmail que tu envoies. C'est pas du plain text. Il y a quand même le logo. Moi, je mets toujours le logo en bas de l'email. Je montre la photo du produit. Des fois, je mets la photo des fondateurs parce qu'encore une fois, ça humanise. Tu vois, c'est pas tout blanc, tout noir. Des fois, je mets des petits emojis. Le client me dit, moi, j'aimerais qu'on mette des emojis ou de la couleur sur le texte. Enfin, pas de problème. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est juste qu'il faut trouver le juste milieu et faire des ABTS et voir ce qui marche le mieux. Après, tu vois, il y a certaines marques qui ne veulent pas absolument faire ce genre d'emailing parce qu'elles ont une image de marque. Ça fait des années qu'on fait ça, on peut pas changer. Bien qu'elles soient conscientes que de faire des emails plus hybride, plus moche, si je puis dire encore une fois, fonctionne mieux. Et en fait, elle s'assoit sur de la rentabilité versus l'image de marque qui est plus importante pour elle. Donc, c'est un combat, quoi.
Ouais, et puis encore une fois, on définit l'objectif de l'email en amont. Donc, en fait, on le sait, si c'est pour tenir une image de marque qui est définie par des fondateurs peut-être plus éloignés ou même quand on est dans des boîtes un peu plus corpo, finalement, on a la plateforme de marque, on est obligé d'être enserré dedans, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, en fait, on le sait, et on sait que l'email, c'est un vecteur uniquement de branding et pas de chiffre d'affaires. Par contre, ce que tu retrouves parfois, c'est de dire, ouais, mais du coup, on voudrait et du chiffre d'affaires, mais au sein de cette plateforme de marque. Et là, au final, on en revient à ce marathon que tu cours avec les pieds attachés et les mains dans le dos et un bandeau sur les yeux. Finalement, on ne dit pas que c'est impossible, mais on dit que ça va peut-être être un peu compliqué quand même d'y arriver, et en tout cas d'y arriver à temps. Après, tu auras la voiture balai qui va passer. Il faut quand même faire attention aux assets qu'on va avoir et au final de se dire ok, le mail, il faut savoir aussi si on lui demande de l'argent, de la connivence avec le client, de faire passer des infos spécifiques sur des innovations produits. Nous, on a eu ça il n'y a pas longtemps. On est sur un mois où il y a des grosses innovations sur des produits un peu tech. Là, on est sur une vocation informationnelle. Tu retrouves un peu les mêmes logiques finalement que le SEO avec quel est le niveau de recherche ou le niveau d'information que souhaite la personne en face. Est-ce que tu es sur du transactionnel, d'informationnel, etc. On en revient quand même au fait que l'email, ça reste le moyen par excellence de communication directe avec ce client. Et on peut peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur ce positionnement un peu particulier que ça a avec la capacité à créer une relation avec la marque. On a pris des exemples déjà où tu peux rentrer en connivence avec le client, mais comment ça se positionne, comment tu t'insistes sur cette phase-là pour que justement ça soit... Oui, tu peux avoir du ROI sur l'email, mais tu as aussi un peu les fameux dark socials, tu as des effets que tu vois pas forcément, mais que tu vas récupérer. Comment tu vois tout ça?
Moi, je vois tout ça. En fait, pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. Quand tu fais de l'email marketing en e-commerce, il y a forcément la rentabilité de ta stratégie emailing et il y a aussi la communauté que tu vas créer. Pour moi, ça, c'est les deux choses hyper importantes. Donc, est-ce que tu cherches à faire du profit rapidement, tout de suite? Ou est-ce que tu cherches à créer une communauté? Est-ce que tu cherches à que les gens disent waouh, oh, cette marque, ils font des emails trop beaux. Par contre, j'en sais rien ce qu'ils disent. C'est juste trop beau. On devrait s'en inspirer pour tu vois, les écoles d'art ou j'en sais rien. L'idée, c'est ça, c'est de se dire comment toi, tu as envie d'être vu. Est-ce que tu as envie d'être vu comme une marque qui communique d'une façon très corporate, très... très design, très lourd, très machin, comme tout le monde, où tu as envie, encore une fois, d'être un petit peu différent et de parler d'une manière conversationnelle, comme Jacques et Demeter, ils le font. Je veux dire, c'est marrant parce que tu vois, tu t'en souviens, en fait, de la façon dont ils communiquent et c'est ça qui est important. Même si tu n'es pas client, tu t'en souviens. Et demain, si on dit, tu sais pas où je peux acheter des chaussures je sais pas quel type de chaussures ils font, tu vas penser peut-être à eux parce que tu dis, eux, par contre, ils ont une façon de communiquer, c'est hyper intéressant, ça sort du lot et c'est ça qu'on cherche, c'est... Moi, j'aime bien prendre la métaphore de Seth Godin, d'être la vache violette, en fait. Dans un champ, il y a des vaches. S'il y a une vache violette, à part la vache violette Milka, si c'est une autre vache, faut que ce soit toi, en fait. Il faut que tu sortes du lot et que les gens se disent « c'est hyper intéressant, on voit que cette marque-là, parce qu'elle a une façon de communiquer qui est différente. » Et il faut se dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'on est soumis à énormément de contenu. Donc, si tu ne te démarques pas, tu vas mourir. Ta stratégie d'email marketing, elle va mourir. Ou alors, elle va marcher gentiment, tu vois. Ça va... Et donc, voilà, c'est savoir un petit peu ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie de créer ce mouvement en mode « Venez les gars, je vous parle d'une manière conversationnelle, humain. On est là ensemble, je vais vous aider à résoudre votre problème. Ensemble, on va créer un truc, un mouvement. » Ou « Je vous écris vite fait, bien fait. » Enfin, vite fait, bien fait, non. Je fais des emails très brandés, je vous écris comme j'écris à tout le monde. D'une manière un peu agressive, ça sonne un peu dans tous les sens, c'est très très design, ça brille, machin, voilà, ça, en fait il y a tellement d'informations aussi dans ce genre d'email que tu vois, t'as 3 à 4 couleurs, t'as des appels à l'action de tous les sens, t'as plein de photos des produits, enfin, ça peut vite être submergent d'informations versus un email qui est beaucoup plus simple. Enfin, ça communique un autre message, si tu veux. Je sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, c'est un peu le... Et c'est assez marrant, cet effet, ça me fait penser un peu des emails trop maquillés où du coup, tu vois plus vraiment ce qu'il y a derrière et tu sais plus à quoi s'attendre. Et l'autre métaphore à laquelle ça m'a fait penser, ça, c'est... C'est-à-dire, si ton email, c'est Coachella, ça part dans tous les sens. Au final, la personne, elle est là, elle est un peu paumée. Et finalement, elle revient, elle se souvient de rien. Elle clique sur précédent, elle se souvient même pas de ce qu'elle a vu. Il y a un blackout total. On passe de Coachella à Very Bad Trip. Mais au final, ça n'a pas servi ta marque, ça n'a pas servi ton personnage. Donc au final, on en revient au pourquoi tu as envoyé cet email et le pourquoi il n'est pas rempli, en fait. Donc si tu ne cherches pas à te distinguer, si tu n'as pas un chemin clair, finalement, ça peut être assez compliqué. Peut-être pour insister un peu là-dessus, sur le fait qu'on le redit, mais l'email, c'est un support de communication directe, il n'y a pas d'intermédiaire, etc. Et pour le coup, tu t'adresses, même si tu segmentes, tu t'adresses à une audience qui est quand même assez large, même si tu essayes de personnaliser, etc. Ça, on le sait, mais tu ne vas pas jargonner, comme tu le disais. Comment tu fais ces exercices d'adaptation du ton, du style, qui peuvent être, encore une fois, comme on le disait, différents du site web, différents des créas sur les réseaux sociaux, etc. Tu as vraiment un peu une capsule préservée, étanche du reste en email. Comment tu fais cet exercice-là, en fait?
Déjà, moi, quand je travaille avec une marque, je demande toujours qui prend la parole dans l'email. Enfin, qui est la personne qui prend la parole dans l'email? Est-ce que c'est le fondateur Jean-Michel? Est-ce que c'est la fondatrice Monique? Est-ce que c'est Julie du service client? Est-ce que c'est Paul du... tu vois? Ça, c'est hyper important de le savoir. En fonction de ça, moi, je vais étudier un petit peu la façon de communiquer. Tu vois, moi, j'ai des clients qui communiquent aussi sur LinkedIn, des clients e-commerçants qui communiquent aussi sur LinkedIn. Ce que je vais faire, c'est que je vais sur leur LinkedIn, je vais voir de la façon dont ils communiquent. Est-ce qu'ils font des grandes phrases? Est-ce qu'ils font des phrases plus courtes? Est-ce qu'ils utilisent du jargon, un petit peu de jargon? Est-ce qu'ils utilisent un ton qui est un petit peu différenciant? Est-ce qu'ils utilisent certaines expressions? C'est cette verbatim-là qu'il faut réutiliser derrière dans tes contenus pour être cette personne-là dans les emails. Après, tu vois, ça m'est arrivé aussi, je pense que toi aussi, de faire une séquence email de bienvenue, par exemple, et c'est le fondateur qui explique sa marque. Séquence email de panier abandonné, c'est une autre personne qui communique. Ça crée un petit pattern un peu aussi, en mode, putain, qui c'est qui m'écrit Et puis, pareil, pour le post-achat, merci beaucoup, je suis l'autre fondateur, c'est hyper intéressant, enfin, c'est hyper cool, on est content pour vous, blablabla. Donc, c'est vraiment s'adapter et trouver les éléments de langage qui caractérisent cette personne pour, encore une fois, rentrer dans ses bottes le plus facilement possible.
Ouais, et pour le coup, c'est un exercice que tu peux faire que en t'intéressant vraiment profondément à la marque et pas juste, finalement. Tout en a qui vont dire, ouais, mais en fait, l'email, j'ai juste besoin d'avoir l'URL du site web et puis je vais essorer, je vais enlever le jargon, je vais adopter un ton... un peu comme sur le site web, mais juste je vais faire des phrases plus courtes ou machin. En fait, non, tu dois vraiment plonger, sinon, encore une fois, tu vas passer à côté. Ça, c'est un exercice qu'on voit pas forcément. En fait, c'est la face immergée de l'iceberg de l'email, de l'emailberg. Et ça, tu le sais que quand tu t'intéresses vraiment aux logiques qu'il y a derrière l'email marketing.
Tu vois,
je trouve ça assez fascinant pour le coup.
Je me souviens avoir travaillé avec une marque qui était passée sur Qui veut être mon associé, et je m'étais tapé l'épisode Qui veut être mon associé parce que justement je voulais repérer les éléments de langage de ma cliente. Et donc j'avais une feuille, enfin un papier, enfin sur l'ordi, j'écrivais tout ce qui pouvait la caractériser pour que derrière on ait vraiment l'impression que ce soit elle qui écrive. Et c'est ça un petit peu notre rôle en tant qu'email marketeur. C'est un peu ghostwriter slash, tu vois, on est un petit peu là pour créer du contenu à la place de nos clients. Donc, c'est hyper important de comprendre tous ces éléments et de les retranscrire d'une manière la plus simple à lire possible et la plus agréable, quoi.
Ouais, et finalement, c'est là où, tu vois, on parlait des plateformes de marque tout à l'heure qui peuvent te contraindre. En fait, tu crées, tu peux t'en inspirer de la plateforme de marque, tu t'inspires des éléments de langage, des personnes avec qui tu parles, tu t'inspires du site web. Finalement, tu vas piocher un peu à droite, à gauche. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais en fait, moi, ma marque, elle n'est pas définie » ou « La marque, elle existe depuis longtemps, mais on n'a jamais eu cette fameuse plateforme de marque » ou « Apparemment, maintenant, il faut que tout le monde ait une plateforme de marque. Dès que tu crées un compte Stripe sur ton site web, il faudrait que tu aies une plateforme de marque et tu as des plateformes. Maintenant, on voit… Alors, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais dans l'idée, tu peux avoir des chartes un peu low cost, finalement, qui ne sont pas des vraies plateformes de marque. Au final, est-ce qu'on en a besoin pour faire de l'email marketing? pense que tu as déjà un peu répondu à cette question-là, mais si on pose clairement les mots, est-ce que tu en as besoin?
Ouais, non, c'est ce que je te disais. Je pense vraiment que tu as besoin de t'as pas forcément besoin d'avoir déjà du contenu qui a déjà été fait, mais il faut toujours récupérer du contenu ou alors adapter la verbatim à la personne qui écrit. Une autre anecdote aussi, tu vois, moi j'avais un client à qui j'ai travaillé, il m'a dit non, je veux pas que ce soit moi qui prenne la parole. Je veux pas que ce soit quelqu'un de mon équipe parce que si demain la personne part, blablabla, bref, des excuses un petit peu. Tu vois, je comprends, tu vois. Donc, on a créé un personnage qui était dans l'entreprise. Je ne sais plus qu'on l'a appelé, bref. Et ben, c'est cette personne qui prenait la parole. Et pourtant, tu vois, je n'ai pas récupéré d'éléments de langage. C'est juste que j'ai créé ce personnage. Donc, on a fait un document. Pierre-Paul Jacques, je ne sais plus comment il s'appelait. Il est comme ça. Il communique de cette façon. Comme ça, c'est tangible, en fait, si tu veux. Et ça permet de pouvoir le réadapter sur d'autres supports.
Ouais, c'est quelque chose où finalement, tant que tu es au clair au sein de ta stratégie email, tu peux la modifier, etc. Mais tant que tu fais ta mini-charte, tes mini-codes, etc., et que tu crées cette espèce de fil rouge qui donne quand même une cohérence, c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop parlé de cohérence, mais dans tout ton univers d'email, il faut qu'il y ait cette cohérence parce que c'est des mini-conversions à chaque fois que tu vas aller chercher, c'est une crédibilité que tu vas bâtir. Donc en fait, il vaut mieux avoir une cohérence au sein de l'email, même si l'email peut être un petit peu en décalé par rapport à d'autres éléments qui sont plus publics. Ça, on l'a déjà dit, mais... Il peut vivre dans son coin, mais que s'il est structuré, s'il a ses propres codes et si tu changes pas, tu passes pas du tu au vous d'un mail sur l'autre, c'est pas pour les mêmes sujets, un coup c'est Jacques, un coup c'est Paul, un coup c'est Michel, etc. Finalement, tu comprends pas, tu crées pas de lien. Tant que tout ça c'est structuré, je pense, tu peux te tromper, mais le coût de l'erreur est mineur par rapport à ne pas communiquer et ne pas adapter ça, enfin ne pas communiquer du tout finalement.
Ouais, non, clairement, c'est ça.
Et on a un peu parlé aussi du design, l'image versus le texte. Ça peut être intéressant d'en reparler encore une fois parce que toi, tu es un grand partisan du texte dans les emails, là où on est quand même dans une époque de vignettage produit fort et pour autant fort présent et faible résultativement parlant. Il n'est pas français, mais vous comprendrez.
Ouais, on a compris.
Aujourd'hui, toi, ton parti pris, on va dire, ça va être de pas se concentrer seulement sur le design, mais... sur le message à faire passer, ce serait quoi le parti pris si tu devais le résumer à quelqu'un et dire pourquoi toi tu fais un email marketing qui est différent d'un autre, tu le résumerais comment?
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que tout le monde fait la même chose, tout le monde fait des trucs hyper templétisés, tout le monde fait suit les codes, les templates, en haut tu mets ça, après tu mets ça, après tu mets ça, et bah, c'est juste de se dire est-ce que j'ai envie de faire comme tout le monde ou est-ce que j'ai envie de sortir du lot, est-ce que j'ai envie d'avoir une communication qui est différente, est-ce que j'ai envie que les gens se disent putain c'est hyper intéressant ou alors... Putain, encore un qui va encore m'envoyer des emails, il me fatigue, il me dit toujours la même chose. C'est ça le parti pris, c'est de se dire, est-ce que je fais comme tout le monde ou est-ce que je fais des choses différemment? Est-ce que je suis, c'est horrible ce que je vais dire, mais est-ce que je suis un mouton parmi tant d'autres ou est-ce que justement je prends le parti pris de faire différent et de me dire que, alors certes, peut-être ça va peut-être pas plaire, j'en sais rien, il y a des gens qui vont peut-être se dire, ouais, ça me plaît pas, mais je pense pas que les gens se disent, ah non, je m'attendais à recevoir un email trop beau, là je reçois pas un email beau, je me désabonne, ça m'a saoulé. Tu vois ce que je veux dire, je pense pas que ça se passe comme ça. C'est se dire, ok, le parti pris, c'est je communique de cette manière, je veux être vu de cette manière. Souvent, moi, mes clients avec qui je travaille et avec qui on fait ce genre d'email, c'est des fondateurs de marques e-commerce qui ont envie d'être proches de leur audience. C'est pour ça, souvent, qu'ils travaillent avec moi, parce qu'ils se disent, on adhère à ton discours, on n'a pas envie d'être vu comme une multinationale qui n'a rien à foutre de ses clients, on a envie d'être vu comme une entreprise qui fait du super taf, super pro, mais qui est proche de son audience, qui communique d'une manière différenciante. Donc voilà, c'est ça le parti pris, je pense. C'est vraiment de communiquer d'une manière humaine versus une manière très marketingisée, si je puis dire.
Ouais, finalement, on en revient aux artifices que tu vas enlever pour essayer d'aller plus directement vers l'utilisateur final, vers le client de ton client. Hein, parce qu'on est dans un contexte où toi, tu fais l'email marketing pour d'autres clients, pour le coup. Tu vas gommer les artifices qui finalement nuisent peut-être à cette circulation des émotions, cette circulation des messages, et probablement que ça marche parce que aussi tu arrives à mettre un peu de couleur sur ta vache dans un pré où il y a beaucoup de vaches transparentes ou qui ont les couleurs traditionnelles, on va dire, mais où du coup elles sont remplaçables les unes par rapport aux autres, on va dire. Tu arrives à faire ce petit déclic qui finalement fait la différence, là où on peut être très très bon en graphisme, on peut être très bon en design, on peut avoir des belles photos produits, etc. Finalement, les marques qui arrivent à faire ça aujourd'hui, on le voit parce que tu vois, à contre-pied, et je tire pas du tout des balles dans mes deux pieds, mais on travaille avec des e-commerçants un peu plus classiques qui aiment bien cette structure d'email, Mais finalement, là où tu peux bypasser un peu ces règles-là aussi, c'est quand ta marque est assez forte, elle appuie par ailleurs, et l'email, ça vient juste être ce canal de communication directe où tu viens informer sur tes nouveautés produits, etc. Et c'est des choses que les gens attendent. Mais finalement, tu as quand même ce besoin de créer du lien avec la marque. C'est juste que tu choisis de le faire en dehors de l'email parce que, encore une fois, hein, la décision corpo peut être de dire, bah non, l'email, il doit respecter tel ou tel code et c'est comme ça et pas autrement. Comme on le disait, ça vient plomber probablement les résultats, ça vient plomber cet effet cumulé qui fait que bah dans le temps, l'email va prendre de plus en plus de place, la marque va être de plus en plus connectée avec ses utilisateurs. Donc si tu n'as pas les relais hors email, ça peut être dangereux finalement. Et au-delà de ça, et ça, je leur dis même si j'ai des clients qui écoutent, tu perds des opportunités en ne faisant pas ça. Donc c'est
C'est un
quelque
parti
chose où
pris. Ouais.
voilà, tu te prives d'un élément dans ton équipement. C'est un parti pris,
Ouais.
tu connais les risques et c'est tout. Et ça peut être parce que tu juges que tu es plus héroïste ailleurs, etc. Ça, chacun voit midi à son email, comme on dit. On ne dit pas ça, mais tu vois l'idée. Et peut-être que aussi, tu vois, cette notion de tendance, on parlait de la tendance des emails ultra templétisés, on parlait du fait que bah, tu avais quand même de plus en plus de marchands qui se remettaient à l'email marketing, donc tu as de plus en plus d'emails qui sont envoyés d'une année sur l'autre. Est-ce que de ton côté, tu vois des tendances qui sont anticipées sur ce phénomène de saturation, sur les réglementations anti-spam, etc. Comment t'anticipes le futur de l'email marketing pour faire un peu grandiloquent?
Moi, je pense que comme tu dis, on reçoit de plus en plus d'emails, ça saoule de plus en plus les gens, et donc c'est juste, enfin, c'est dans les crises justement qu'on peut émerger. Et ben, de la même manière qu'il y a l'IA aujourd'hui, ça fait partie énormément de notre quotidien. Il y a beaucoup de contenus qui sont faits par l'IA, enfin, c'est très basique, je veux dire. Alors que si tu prends ce contre-pied, tu te dis, ben, moi, je vais faire de l'humain, je vais mettre l'humain au cœur de ma communication. Et ben justement, tu peux pas être remplacé par l'IA, tu peux pas être remplacé. Et du coup, tu vas attirer des personnes qui sont comme toi et tu vas repousser des personnes qui sont pas comme toi. Et je pense justement qu'en 2024, c'est ça qui va primer, c'est le marketing conversationnel, l'humain avant tout. Et encore une fois, le fait de montrer un peu le behind the scene, tu vois, derrière les rideaux, enfin, comme on pourrait dire en français, ouais, ce qui se passe à l'arrière-boutique, de montrer un petit peu
Les coulisses, hein.
voilà, les coulisses, montrer ce qui s'y passe. Et ça, c'est pas un contenu que l'IA peut faire, c'est pas un contenu que ton concurrent peut faire. Justement, c'est d'être très humain pour se différencier de tes concurrents et attirer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi et qui se reconnaissent dans ce que tu partages, quoi. Donc voilà, mets vraiment le focus là-dessus.
Ouais, ça c'est assez marrant, ça me fait penser à une newsletter que j'avais envoyée à ma base il y a quelques semaines où j'avais signé email complètement rédigé par un humain. Parce
Ah
que
ouais.
c'était un email où je partageais pas mal de use case sur l'IA justement, et j'avais quand même précisé que c'était moi qui l'avais écrit, ce qui était complètement paradoxal parce que finalement j'ai aux gens utilisé l'IA pour tel ou tel sujet, c'était pour écrire des scripts sur Google Ads, ce genre de trucs, et à la fin je dis quand même que c'est moi qui l'ai écrit parce qu'en fait oui l'outil il utilise l'IA et c'est pour un use case spécifique, en gros coder sans savoir coder, mais c'est moi qui l'ai écrit parce que j'avais besoin moi de l'expliquer aux gens. Donc ce côté humain finalement c'est peut-être ce qui va rester. Là où
Exactement.
d'autres, par simplicité, mais un peu comme les templates par simplicité, bah, finalement, ceux qui continuent de faire l'effort, s'ils le font bien, peuvent être rémunérés. Et je parle pas en argent, je parle aussi en attention, en lien, etc. Tu vois d'autres éléments?
Ouais, je pense que le fait de montrer son visage, faire des lives, tu sais, des lives sur ses réseaux sociaux, bon là ça dépasse un peu le champ de l'email, mais faire des lives, montrer son visage. Ça humanise énormément et encore une fois, ça permet vraiment de différencier des e-commerçants qui ne sont pas trop trop fiers de ce qu'ils font ou alors qui n'osent pas vraiment. Et bah toi, tu dis, ok, moi je suis à fond dans mon projet, je sais ce que je fais, c'est très bien. Même si j'ai un peu peur, je vais montrer mon visage pour montrer que j'ai rien à cacher. Justement, je pense que ça va créer un fossé entre ceux qui veulent pas le faire ou qui n'osent pas le faire versus ceux qui veulent le faire parce qu'ils ont un intérêt derrière à faire ça. J'ai fait une vidéo YouTube récemment, non, je l'ai faite, mais elle n'est pas sortie encore, sur les 5 tendances 2024 d'après Alex Catoni. Donc Alex Catoni, c'est une marketeur américain qui expliquait, elle, ces 5 tendances 2024. Justement, elle disait, voilà, le marketing humain, le fait de montrer son visage en live, le fait de parler à son audience d'une manière conversationnelle, très humaine, d'après elle et d'après moi, dans le sens où moi, je le pousse depuis déjà un petit moment, mais je pense que ça va creuser des fossés entre ceux qui ne le font pas versus ceux qui le font et ça va créer des différences entre les audiences et les communautés engagées versus des communautés pas trop engagées.
Ouais, clairement. Et puis, tu as aussi ceux qui veulent le faire et ceux qui peuvent le faire, parce que finalement, tu as quand même eu une vague, ça s'est beaucoup calmé, heureusement, mais sur tout ce qui était un peu dropshipping, produits faible qualité, aucune marque, etc. Bah finalement, il y a eu un peu un côté vaccination, côté utilisateur, où tu n'as plus trop envie d'acheter non plus chez ces marques-là qui n'ont rien à raconter finalement, parce que c'est un mec dans son garage qui fait de l'achat-revente. Bon, il n'y a aucune identité. Là, au moins, en prenant ces parties pris-là, et après, promis, on revient sur l'email marketing, mais tu mets en avant le fait que non, tu n'es pas comme ça, tu as des choses à raconter, tu as une valeur à ajouter, tu as une valeur à apporter à ton marché. Et ça, ça crée des barrières à l'entrée très basses, hein, mais ça en crée quand même, par rapport à d'autres personnes qui peuvent être sur les mêmes segments de marché que toi, qui peuvent vouloir la carte bleue des mêmes personnes, etc. etc. Très bon point, effectivement. Et c'est des choses que tu peux toujours relayer de toute façon. L'email marketing est là aussi pour faire l'amplification de tout le reste de la stratégie, finalement.
Exactement.
C'est un peu un équipier, un ravitailleur, un régisseur de tous les autres. Donc, c'est ça. Contre-intuitivement, l'email marketing est multicanal. Ça, c'est plutôt cool pour le coup. Et pour autant, c'est un levier qui est super vieux. On le disait, je crois que je l'avais mis dans une de mes newsletters, mais je crois que ça date des années 80, l'email marketing au tout début. On a des solutions d'email marketing bien connues, qu'on citera ou qu'on ne citera pas, mais qui te promettent que l'email devrait représenter 30% de ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu en penses? Et on voit avec l'emphase que j'y mets, la vie que j'ai moi-même là-dessus.
Tu vas me donner des boutons là si tu commences à parler de ces sujets-là. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vois deux choses. Alors, je ne vois pas forcément des marques ou des logiciels qui parlent de ça. Moi, je vois plus des personnes qui vendent des services d'email marketing qui parlent de ça, que ce soit des agences ou des freelances qui te disent « je vais t'ajouter 30% à ton chiffre d'affaires grâce à l'email marketing ». Donc, moi, j'ai deux solutions là-dessus. C'est soit ces personnes mentent, elles mentent, ou alors elles n'ont pas compris comment marchait l'attribution en email marketing. Parce que tu n'ajoutes pas 30% au chiffre d'affaires. C'est pas tu fais 100 000 euros, tu vas faire 130 000 après avoir mis une séquence email en place. Non, c'est pas ça. Ça dépend le niveau de chiffre d'affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attribution, en fait, c'est de l'attribution. C'est-à-dire une personne, quand tu lui envoies un email, dans un laps de temps de 2 jours, par exemple, si elle ouvre ton email, elle le clique, elle regarde et qu'elle revient 2 jours après et qu'elle achète sur ton site internet, cette vente va être attribuée à l'email marketing. Donc en fait, l'attribution, c'est un petit peu tricky dans le sens où toi-même, tu sais que c'est pas tu cliques directement, tu achètes, c'est pas l'email tout de suite, c'est pas obligatoirement l'email qui te donne envie d'acheter tout de suite. La personne, elle peut partir 1 jour et demi, 2 jours et se dire j'achète plus tard. Après, il y a aussi le fait de modifier la période d'attribution. Je sais que Klaviyo la met à 5 jours par défaut. Tu te rends compte, 5 jours, c'est énorme. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je reçois un email, je le clique, je pars, je sais pas, 3-4 jours en vacances, je reviens, ça a eu le temps de mûrir dans ma tête, je retourne sur le site internet sans passer par l'email, j'achète, cette vente va être attribuée à l'email marketing. Donc finalement, c'est dégueulasse, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, première chose, je pense que l'attribution, il faut la réduire à 2-3 jours maximum.
La surattribution, excuse-moi, vas-y. On est un peu décalé. Je disais, c'est de la surattribution à l'état pur.
Yeah. Exactement. Donc, je pense que l'attribution, il faut la mettre à 2 ou 3 jours pour, encore une fois, avoir des stats qui sont le plus proche de la réalité. Et le problème aussi, quand tu as une période d'attribution qui est trop large, tu vas pouvoir avoir de l'argent qui est attribué à l'email marketing, mais aussi à la publicité peut-être. Tu vois, si tu as une fenêtre d'attribution trop grande, peut-être à autre chose. Donc, en fait, tes stats, elles sont complètement biaisées. Donc, ce n'est pas de l'ajout de bénéfices, de chiffre d'affaires, c'est de l'attribution. C'est-à-dire que, je te dis une bêtise, je suis hyper nul en maths, mais sur 100 000, tu as 30%, t'as 30 000 euros qui sont attribués. Ce n'est pas vraiment l'email à générer lui-même en tant que tel de l'argent tout de suite. Tu vois, c'est de l'attribution. Donc, c'est un petit peu abstrait, mais ça fait une grande différence. Parce que des fois, tu tombes sur des e-commerçants qui te disent « Ouais, il paraît que tu peux m'ajouter 30%. » Tu vois, faire passer carrément un cap, 30% sur un chiffre d'affaires, c'est énorme. Ça dépend à quel type de marque tu travailles. Mais si tu travailles avec des grosses boîtes qui font 200, 300, 400 cas par mois, 30%, c'est absolument colossal. Donc, il faut faire attention. Moi, pour moi, ça, c'est des vendeurs de tapis ou alors des mecs qui connaissent rien à l'attribution et qui devraient creuser un peu le sujet, tu vois. Donc, voilà mon point de vue là-dessus.
Mais clairement, l'attribution, tu fais bien d'en parler parce que c'est un sujet qui est trop aride pour avoir du reach sur des réseaux comme LinkedIn. Donc, il y a peu de monde qui en parle finalement. Et tu as une telle fumisterie, n'ayons pas peur des mots, sur ce sujet-là où, bah oui, la donnée plateforme, et de toute façon, tu prends l'exemple de Klaviyo qui a clairement percé en utilisant cette suratribution pour montrer aux gens, bah regardez, sur vos 100 000 euros, il y en a 30 000 qui passent par mois quand même. Hein. Si demain vous arrêtez, vous les aurez plus. Bon, bah, en fait, spoiler, tu vas peut-être perdre que 5 ou 7 parce qu'en fait, ça vient aider à la conversion sur les autres. Tu avais un exercice assez sympa. On avait été sollicité sur un dossier, sur un audit 360. Donc, tu vois, on avait fait et le SEA, et le social, et l'email. Et en fait, tu avais des délais avant conversion et un nombre de touches, donc un nombre de visites sur le site avant conversion qui était énorme. Tu étais sur des achats assez compliqués, un panier moyen à 2000 euros, etc. Donc, ça se justifiait, tu vois. Les personnes ne comprenaient pas pourquoi. Bah, tu additionnes le chiffre d'affaires qu'il y a dans Google, dans Meta et dans... c'était Klaviyo en plus, je crois, chez eux. Si tu additionnes tout ça, tu arrivais à 2,5 fois le chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Ouais, si tu avais d'autres leviers aussi. Et donc, si tu additionnes toutes les plateformes, tu avais un effet gonflette des résultats. Et ils ne comprenaient pas pourquoi en coût marketing, ça ne matchait pas. Bah, en fait, ouais, si tu as un clic sur Google Ads Day One... le lendemain, tu es retargeté sur Meta, tu cliques, tu laisses ton adresse mail, tu as un mail d'abandon panier Klaviyo et tu achètes 2 ou 3 jours après. Mais en fait, les 3 plateformes vont s'attribuer parce qu'il n'y a aucune déduplication entre les plateformes. Ça, c'est un sujet qui manque de visibilité pour le coup. Mais heureusement, tu as de plus en plus de maturité. Mais je vois des personnes qui se lancent en e-commerce qui ne connaissent pas du tout cette logique-là. S'ils ne surveillent pas clairement cette partie-là, au plus tu vas multiplier les leviers, au plus tu vas avoir cet effet illusion d'optique finalement et te prendre les pieds dans le tapis. Mais ça, j'ai à peu près le même avis que toi sur la partie 30% qui passe par l'email. Oui, peut-être, et tu vas chercher l'incrément qu'il y a derrière. Mais si tu fais une attribution mono-levier, pareil, ce qui n'est pas recommandé non plus, hein, mais tu viens toujours chercher à pondérer, etc. Tu vas te rendre compte que l'email, en fait, il est dépendant des autres et il aide les autres. Mais de toute façon, il a besoin d'autres canaux pour aller récupérer des nouvelles adresses mail sur lesquelles tu vas envoyer ces emails-là. Donc, c'est juste la synergie que tu vas mettre entre tes canaux qui est importante. Mais ce 30% hyper commercial qui est un peu en mode je fais une offre irrésistible, cher e-commerçant, etc. Bon, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est un peu bullshit.
Moi, j'ai pas de problème quand une personne le dit, tu vois, je t'aide à faire de l'email marketing et machin. 30%, ok, mais dis que c'est de l'attribution en fait. Ne dis pas c'est du top revenu, dis que c'est de l'attribution à l'email marketing, que c'est pas de la valeur en plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une nuance, mais qui est hyper importante. Et en fait, le fait d'éduquer le marché sur le fait que 30%, ça se fait vite fait, bien fait, et bah du coup, c'est des conneries, tu vois. Donc voilà.
Mais c'est là où tu vois, il y a une tendance quand même de fond en marketing au global, c'est sur la notion d'incrémentalité. Et maintenant que tu as quand même de plus en plus de clics avant achat, et je ne vais pas trop digresser de l'email, mais je pense que c'est important pour le sujet, mais maintenant que tu as de plus en plus de clics avant achat, parce que tu as aussi plus de comparaisons finalement, parce que tu sors de la période hyper inflationniste, finalement le pouvoir d'achat est en berne, etc. Les gens sont beaucoup précautionneux quand tu as des achats plus ou moins importants, donc finalement il y a plus de comparaisons, il y a plus de jours avant conversion, et donc ce que tu vas avoir du mal à distinguer par rapport à avant, c'est quel est l'incrémental que va m'amener telle ou telle campagne, que va m'amener tel ou tel levier. Et ça, je pense que ça va se démocratiser encore un peu plus en 2024, parce que tu as de plus en plus de monde qui s'y intéresse, parce que chaque levier amène ses propres coûts, en fait. Donc, si tu dédupliques pas et si tu fais pas ce calcul d'incrémentalité, tu as du mal à voir finalement quel est ton ROI au canal. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait être de base. Et j'attends le mec qui te dit « je vais ajouter 30% de chiffre d'affaires incrémental dédupliqué à votre e-commerce. » S'il y en a un qui écoute l'épisode, écrivez-moi parce que j'ai hâte de parler avec vous et de découvrir ensemble cette méthode-là.
En plus des 30%, je paye ton URSSAF, t'inquiète, je m'occupe de tout. C'est moi qui gère. C'est des promesses qui sont absolument démesurées. Et moi, c'est pour ça que je dis, ça me fout des boutons, tu vois, parce que voir des conneries comme ça sur LinkedIn, moi, ça me dépasse.
Et pour autant, tu vois, en termes de conversion et d'attrait à la marque, etc., on en revient là, hein, mais l'email marketing, c'est quand même un canal qui a un très fort effet de levier, de par le côté déplatformé, de par la communication directe, etc., etc., on ne va pas y revenir. Mais il y a un truc assez choquant, c'est quand même revenu à la mode assez récemment en France. Tu as eu une grosse phase de délaissage de ce levier-là. Est-ce que toi, tu as des petites idées sur pourquoi c'est revenu à la mode que récemment?
Je pense que tout ce qui est acquisition, déjà, c'est hyper cher. Toi, tu dois le savoir. Hein. L'acquisition augmente. Les coûts d'acquisition augmentent. Les gens se rendent compte que faire d'acquisition, c'est très bien. Sur un site e-commerce, c'est très bien. Mais si derrière, tu n'as pas moyen de garder ce trafic, je vais reprendre une métaphore qui est hyper simple. C'est tu remplis une passoire d'eau, tu vois, finalement, ça fuit. Donc, si tu colmates pas les trous avec ton email marketing, bah, tu gardes pas cette eau. Et finalement, tu n'arrives pas à remplir ta bassine. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'il faut colmater tout ça. Et justement, je pense que de plus en plus de personnes commencent à le comprendre, en plus du fait que l'acquisition, c'est hyper cher, et aussi au fait que beaucoup de personnes font de la pub sur moins 30% avec l'email marketing, donc ça donne vraiment envie aux gens, j'imagine.
Ouais, et puis pour autant, tu vois, le coût d'acquisition, je pense que les gens se rendent compte d'un truc, c'est t'as payé très cher pour avoir des gens. Avant, c'était pas grave si tu payais pas cher et que t'avais un achat en face. Là, pour le coup, tu dis, ok, bah en fait, les notions de lifetime value sont quand même beaucoup plus importantes. Tu sais que tu as certains marchands qui vont être plus en galère pour avoir un ROI premier achat. Moi, j'invite tout le monde à être rentable dès le premier achat quand même, parce que sinon, tu crées des business models qui sont, selon moi, assez complexes à maintenir dans le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, tu dis, bah, en fait, oui, si je peux faire passer mon nombre de commandes moyen par client de 1,7 à 3,5, bon, bah, en fait, la messe, elle n'est pas pareille. Donc, tu as des logiques là-dessus et on ressort des stats qui sont vieilles comme la guerre, mais de dire que ça coûte 5 à 7 fois moins cher de fidéliser un utilisateur, un client, que d'en acquérir un nouveau. Bon, ça, faudrait le mettre à jour d'ailleurs avec les coûts d'acquisition ces derniers mois, de ces dernières années, parce qu'on est peut-être même un ratio 1 sur 10 et 1 sur 12, chiffre qui source mon chapeau. Mais en tout cas, ça mériterait d'être mis à jour, parce que c'est des chiffres qui traînent depuis... moi, ça fait 15 ans que je suis dans le web, ça fait 15 ans que c'est les mêmes chiffres. Donc, bon, ça mérite une petite update déflationniste là-dessus.
Ouais.
Mais pour le coup, c'est probablement effectivement un côté trigger là-dessus qui a déclenché ça. Parce que dès qu'on touche les gens au porte-monnaie, un peu comme la crise énergétique,
ouais,
en fait, tu sens qu'il y a une réaction un peu épidermique. Tu as ça et peut-être aussi les outils qui sont devenus un peu plus simples à mettre en place. Moi, je me souviens que les automatisations email... fut un temps dans les logiciels, c'était vraiment une galère.
Ouais.
Et tu avais moins cette logique d'API où tu pouvais avoir les bons champs sur ta base de contact, etc. Donc, tu as peut-être quand même un alignement des astres qui fait que aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de savoir coder pour mettre un clavio, un Shopify, par exemple. C'est assez dingue quand même en termes d'accessibilité aux personnes. Pour le coup, parce qu'on pourrait avoir l'impression que c'est bien beau, l'email marketing, tout ça, on l'a bien vendu, mais quand même avec modération. Mais en termes de cas concrets, tu vois, on pourrait nous dire, ouais, mais en fait, vous vous moquez des incréments de 30% sur l'email marketing, mais est-ce que vous avez des preuves à apporter sur le fait que l'email marketing, ça marche? Et je sais que toi, t'as un track record qui est assez sympa sur le sujet. Est-ce que t'as un cas concret d'une boîte qui aurait pris des partis pris assez forts en email marketing et où ça a eu un petit effet qui se coule, un truc qui marche et dont on a envie de parler aujourd'hui?
Ouais, c'était l'année passée, j'avais bossé avec une marque dans les soins capillaires et notamment sur la séquence email de bienvenue. Donc, tu vois, c'était un petit e-commerçant qui commençait. Et en fait, il me disait, bah, moi, j'ai écrit mes emails, j'ai écrit ma séquence de bienvenue. J'ai fait designer ma séquence de bienvenue par un designer. Donc, tu vois, il y avait ce qu'il fallait sur la séquence de bienvenue avec tous les designs et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, écoute, je pense qu'il y a un truc à faire. Ça convertit pas très bien. J'ai pas des très bons taux. Il y a un truc, est-ce que tu peux m'aider? Donc j'ai bossé avec cette personne. Ce que j'ai fait tout de suite d'entrée, c'est que j'ai enlevé le design très lourd qui avait été fait. Donc il a sûrement payé un designer un peu pour rien, mais j'ai supprimé le design très très lourd qui desservait le message en fait, si tu veux. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Ensuite, j'ai retravaillé les objets d'email, parce que les objets d'email, c'était des trucs très généralistes, très basiques, ça donnait pas du tout envie de cliquer. Et ensuite, j'ai retravaillé le contenu de l'email, des emails de la séquence, avec un ordre un peu plus logique. Donc tu vois, email numéro 1, tu donnes le code promo ou peu importe. Email numéro 2, l'histoire de la marque, comment elle a été construite, pourquoi, à quelle année, blablabla. Email numéro 3, c'était les bénéfices de se procurer le produit. L'email numéro 4, c'était des témoignages clients qui mettaient en avant encore une fois le fait que la marque était crédible et qu'elle est pour rassurer. Et l'email numéro 5, je crois que c'était une foire aux questions, quelque chose comme ça, pour encore une fois casser les dernières objections. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que les taux d'ouverture sont passés de 23% à 46%. Donc juste en modifiant les objets d'email. Et du coup, le taux de commandes placées sur la séquence de bienvenue a fait x3. On a fait x3 sur les ventes juste en modifiant le design, le copywriting et les objets d'email. Forcément, tu vois, les emails, c'était moins lourd, donc ils arrivaient plus facilement en boîte principale. Les gens les cliquaient plus, donc les emails d'après arrivaient encore plus. Donc après, voilà, ça fait effet boule de neige. Et donc, je te dis, on a augmenté de 20%, un peu plus de 20% les taux d'ouverture, et du coup, les ventes ont fait x3 derrière en incrémental. Donc ça, c'était vraiment trop cool, quoi. Donc le client, il était vraiment content là-dessus.
Eh ben, il est là, l'inconscient mental, finalement. Non, mais il y a un point intéressant aussi dans ton étude de cas, c'est que si j'ai bien compris, tu as fait ça sans rajouter d'emails supplémentaires. Et donc,
Non,
c'est
non,
là
non.
où tu n'as pas cette logique volumique, finalement. Tu peux faire mieux avec autant, en fait.
Exactement.
Enfin, oui, tu peux envoyer plein d'emails aux gens, il y a plein de choses intéressantes à raconter, mais tu peux déjà faire mieux sans rajouter, finalement. Et c'est par là, à mon avis, où il faut commencer quand tu reprends une séquence. C'est pas tu te dis, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais dire après, etc. Ta séquence de
Ouais,
bienvenue, elle
c'est
doit pas durer non
l'optimiser, ouais.
plus 350 mois. Et ça, c'est assez intéressant pour le coup. Et ce que tu dis sur le design, tu remets un petit tacle sur le monde du design là-dessus. J'aime bien parce que on voit que c'est ton parti pris aussi. Mais l'AB test permanent, le test permanent, pour le coup, c'est quelque chose qui devrait être quand même assez présent dans les services marketing et de se dire, bah tiens, cette optimisation-là, tu l'as fait en one shot, mais imagine si c'est fait en continu. Alors oui, les gains seront de moins en moins importants, mais je suppose que quand tu arrives à faire x3 sur une séquence, bah en fait, tu en as peut-être sous le pied, j'ai envie de dire. Et ça, tu peux pas le savoir si tu prends pas des directions assez fortes finalement. Donc l'idée de tester, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est pas de se dire, bah non, j'ai fait mon flow une fois, ou j'ai payé un free une fois pour faire un flow, etc., que j'ai fini. C'est un jeu à somme infinie. Donc tu peux jamais dire, j'ai eu la même réflexion dans plusieurs épisodes, mais c'est de dire, tu peux jamais dire que tu as fini le jeu de l'email marketing finalement, même au niveau des flows. Et là, c'est un peu triste de dire ça comme ça pour ceux qui ont payé des flows, mais t'as jamais fini de les optimiser. Le truc, c'est de savoir à partir de quand tu t'arrêtes, quand est-ce que tu touches cette fameuse loi des rendements marginaux décroissants, et à partir de quand, ok, bah, j'arrive pas à battre ma meilleure version, mais tu continues d'essayer quand même. C'est assez dingue pour le coup. Et pour le coup, sur tout ça, tu te dis, ok, en fait, on a fait des optimisations, on a augmenté le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de commande passée. T'as quand même un point qui peut se dire, ok, bah en fait, là, en écoutant, je me rends compte que mes emailings sont pourris, je caricature, ils ont un design super lourd, je pense que ma délivrabilité est très mauvaise, on n'a pas parlé de délivrabilité, mais si vous respectez les codes, normalement, ça va bien se passer. Mes emails sont écrits avec les pieds et très auto-centrés, etc. Je sais pas m'adresser à ma cible, je sais pas à qui je parle, et pour autant, j'ai 28 000 flows en place. Et tu te dis, bah ok, en fait, demain, je vais faire des modifications, je veux prendre les choses en main, je prends le destin de mon email marketing en main. Comment tu démarres, en fait, ce chantier, c'est un chantier pour le coup, sans forcément faire appel à toi, même si on peut faire appel à toi, on mettra tes coordonnées en lien et en commentaire de l'épisode, mais par quoi tu peux commencer simplement chez toi, même si tu n'es pas le roi de l'email marketing?
Déjà, première chose à faire, c'est de tester pour moi la délivrabilité. Est-ce qu'on est bon au niveau de la délivrabilité? Donc encore une fois, la délivrabilité, c'est le fait d'arriver dans la boîte principale de la personne et de ne pas arriver en spam, de ne pas arriver en spam ou dans la mauvaise boîte de réception. Donc c'est de faire un test sur. Il y a deux outils que moi j'utilise, c'est Mail-Tester ou alors Mail Genius. En fait, tu vas envoyer un email on va dire, à ce petit site internet avec ton clavier ou avec ton logiciel, et ils vont t'attribuer une note. Ils vont te dire, ben, il faut régler ça, il faut régler ça, il faut régler ça. Donc après, c'est les paramètres techniques, ou alors tu es peut-être inscrit sur des listes noires. Il y a peut-être ton contenu qui est pas bien, tu utilises des mots un peu spam. Donc c'est déjà tester, encore une fois, cette délivrabilité. Une fois que tu as testé ta délivrabilité, que tu as fait en sorte de réparer ce qui n'allait pas, tu as une note plutôt pas dégueulasse. Je sais pas, souvent c'est sur 10 ou sur 100. Si tu as, voilà, 8,5 sur 10, c'est bien. Tu peux toujours aller plus haut, mais voilà, 8, 8, 8,5, c'est bien. Deuxième chose à faire en place, une fois que c'est fait, ça c'est fait, pardon, tu mets en place un petit pop-up pour récupérer des adresses email. Donc, que ce soit un pop-up au milieu de l'écran, moi j'aime pas trop. Moi je fais un fly-out en bas à droite, tu sais, un truc qui vient sur le côté comme ça, c'est moins agressif. Les gens préfèrent, moi j'ai le meilleur taux de conversion avec un fly-out qu'avec un pop-up, tu vois, très souvent. Donc, je mets un petit fly-out où je dis à la personne, bah, laisse-moi ton adresse email, je t'envoie un code promo ou je t'envoie une masterclass où je t'envoie un e-book où je t'envoie quelque chose qui a de la valeur. Petit spoiler alerte, 99% du temps, le code promo fonctionne mieux, même si ça fait chier de donner des codes promo, ça fonctionne mieux. Et ensuite, d'installer la séquence email de bienvenue qui est associée à l'inscription à ce pop-up. Donc la séquence de bienvenue, ensuite il y a la séquence de panier abandonné et la séquence de post-achat. Les trois séquences email les plus importantes qui couvrent l'entièreté du cycle de vente, avant, pendant, après. Donc une fois que tu as mis ces séquences email en place, encore une fois, c'est la première base, enfin la première brique à l'édifice de ta stratégie emailing. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Moi, je fais ça. Troisième chose à faire, je me focus sur le fait d'envoyer des emails, encore une fois, qui sont intéressants et qui donnent envie d'être lus. on a parlé tout le long de l'épisode, mais c'est vraiment d'intéresser les gens, de leur parler de leurs problèmes, leur parler de leurs désirs, leur parler de leur de ce qui pourrait les aider à résoudre leurs problèmes et notamment ta solution. Donc pour ça, il faut vraiment connaître les frustrations voilà, de son audience, les déclencheurs d'achat, les blocages, les fausses croyances, tout ça, c'est vraiment les déterminer pour derrière écrire des emails qui donnent vraiment envie de faire confiance à ta marque. Et après, une fois que les séquences, elles tournent, c'est vraiment d'optimiser ce qui mérite d'être optimisé. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu as mis en place ton système emailing que c'est terminé, t'as pas fini le jeu. Il faut toujours optimiser, il faut aller chercher des points de conversion parce que voilà, c'est comme tu fais la peinture dans ta maison, tu veux changer la couleur de ton mur, bah, tu fais pas une couche, tu vois, tu vas faire une deuxième couche, une troisième couche pour optimiser, pour voir un peu si c'est pas mieux. Bah, c'est exactement la même chose. Donc là, tu optimises, tu changes les objets d'email, tu fais des A/B tests sur les appels à l'action, tu fais des A/B tests sur l'offre de ton email. Je vais faire plein d'A/B tests pour optimiser. Une fois que ça a été optimisé, c'est jamais fini, hein, mais en parallèle, là, tu peux envoyer des newsletters hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou peu importe. Et l'idée, c'est d'augmenter cette fréquence en fait en testant et en analysant les KPI. Donc, tu vois, c'est tout ce qui est taux d'ouverture, taux de clic, les inscriptions. Tu vois, de mesurer un petit peu, de monitorer tout ça, de voir si à partir du moment où tu envoies 3 emails par semaine, ça se passe très bien, tu as des ventes, ça tombe énormément de ventes, c'est cool. Et par contre, 4 emails, là, tu as un gros drop en termes d'ouverture, en termes de clics, en termes de désinscription. Donc, peut-être qu'il faut que tu restes à 3 emails par semaine. C'est un peu le point de balance, tu vois. Il faut peut-être rester à ce niveau-là. Et voilà, moi, je pense que si tu suis ce process-là, tu as toutes les chances, tu mets toutes les chances de ton côté pour vraiment faire de l'email marketing, un canal de vente qui soit puissant, prédictif et qui tourne en automatique.
Ouais, ce qui est intéressant avec ta recette, c'est que ça repose les fondamentaux, en fait, et ça évite de se prendre les pieds dans le tapis. Ça remet les bases saines sur lesquelles demain, tu peux capitaliser et tu peux faire... Bah, ces évolutions dont on n'a pas arrêté de parler pendant l'épisode, mais l'idée, c'est si tu n'as pas ce socle sur la délivrabilité, si tu n'as pas ce socle sur le contenu slash audience, pour savoir à qui on parle et qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur, et bah, ensuite les bases techniques, on va dire, sur bah, j'ai mes automatisations e-commerce en place ou j'ai les fondamentaux de welcome, panier abandonné, post-achat, etc., qui viennent s'inquiéter, bah, en fait, tu as les trois piliers qui vont te permettre de construire et de capitaliser sur une base saine, là où bah, si t'es mauvais en délivrabilité, même si t'es très bon sur le reste, bah, en fait tes mails vont jamais arriver, donc ça va pas marcher. Si tu sais pas à qui tu parles, tes emails vont pas être lus et de toute façon ta délivrabilité va se crasher. Et si t'as pas tes flows, tu vas pas avoir le flux financier qui va te dire bah tiens, c'est intéressant d'y mettre de l'énergie, c'est intéressant d'y mettre de l'argent, donc tu vas délaisser et donc tout le reste va s'éclater aussi. Donc j'aime bien cette stratégie, un peu, cette recette en trois ingrédients, on va dire, qui peuvent paraître plus ou moins simples, je pense, selon les niveaux de maturité technique et en copywriting et en marque, etc. des gens. Mais pour le coup, c'est juste quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et prendre à bras le corps. Et après, c'est comme quand on court, quoi. Le premier kilomètre, il est un peu dur et après, t'as la dopamine qui arrive et ça commence à aller mieux. Tu vois tes résultats financiers, tu vois ton audience qui grandit, tu fais grandir ta base, etc. Enfin bref, il y a plein d'effets positifs et on revient sur cette logique d'effets cumulés qui est... C'est ça. Et t'as pas de limite non plus en termes de nombre d'emails que tu peux avoir en base. Alors on sait que vous allez payer plus cher vos logiciels parce que la plupart sont basés sur le nombre de contacts que vous avez en base, mais c'est une bonne nouvelle en général d'aller chercher des nouveaux contacts actifs. On n'a pas parlé de purge de base, on n'en parlera pas. C'est ouvrir trop de portes différentes, mais le but, c'est pas d'avoir une accumulation de contacts dormants. Il faut avoir des contacts actifs, mais ça, c'est un capital qui se valorise et en interne et en externe. Bref, c'est quelque chose à vraiment pas louper. Peut-être pour clôturer sur cette partie-là, parce qu'on a couvert pas mal de points sur l'email marketing, mais il en reste énormément pour le coup. Ce serait quoi, selon toi, la chose à faire pour se tenir au courant et muscler un peu son jeu sur l'email marketing au quotidien, finalement, si on se dit, bah ouais, en fait, j'ai appris plein de choses ici, je veux continuer à apprendre. C'est quoi la meilleure façon de faire ça?
Je vais faire de l'auto-pro, mais c'est de suivre mon podcast. Non, mais c'est...
On mettra le...
C'est, de voir ce qui se fait, mais de pas non plus copier bêtement ce que tout le monde fait. Essayer de suivre un peu des créateurs qui partagent du contenu... moi c'est comme ça que je me suis lancé en créant du contenu, en écoutant ce que les autres faisaient, en faisant un peu moins ma sauce, en faisant des A/B tests, en faisant, tu vois, de challengeant un peu ma propre pensée pour derrière avoir des résultats sympas. Mais sinon, oui, toujours pour l'auto-promo, j'ai un podcast sur l'email marketing, j'ai une chaîne YouTube sur l'email marketing, l'idée c'est ça, quoi. Après j'ai une newsletter aussi que je partage deux fois par semaine, je sais pas combien de fois par semaine t'en envoies toi des emails, mais moi j'en envoie deux fois par semaine aujourd'hui. Donc voilà, j'essaie de synthétiser un petit peu tout ce qui est email marketing, les tendances, les bonnes pratiques, les choses, ce que moi je fais, les A/B tests que je fais, les victoires, les défaites. Ouais. J'essaie de partager plein de trucs.
Bon, on mettra de toute façon tous les liens en description, en commentaire de l'épisode pour aller plus loin, parce que l'idée, c'est pas forcément de faire un one shot où on remet tout à plat. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée, en fait. Ouais. C'est un peu comme tu fais un régime où tu vas à la salle pendant un mois. Bah, en fait, si tu fais rien pendant les 11 mois suivants, ça va pas marcher. Donc, je ne peux que vous inviter à aller découvrir ce que fait Steve. C'est vraiment génial. On mettra aussi le lien de ton profil LinkedIn, même si on sait que t'adores ce réseau social. Et pour le coup, bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est un peu fan, vous l'aurez compris, après cette heure et demie d'épisode, vous aurez compris qu'on adore l'email marketing, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je parle pour toi, Steve, mais je pense qu'on on adorera y répondre si on en a. Si on a assez de questions pour faire un autre épisode, on en fera, mais le podcast de Steve est déjà très, très bien fourni avec des guests de grand talent aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça.
C'est gentil.
Je te remercie beaucoup, Steve, en tout cas, pour cet épisode très riche, très dense,
très intéressant, instructif. Très cool.
À très vite.
Allez, ciao, ciao.
Si cet épisode vous a plu, je vous invite à écouter celui qu'on a réalisé avec Mehdi Feknous sur les stratégies de branding.